C'est une bénédiction pour moi d'être avec vous.
Et
je suis très content.
Es mi primera vez en Francia.
C'est ma première fois en France.
Y estoy muy bendecido de estar acá.
Et je suis vraiment béni d'être ici avec vous. Bienvenido.
Thank you, gracias. Cinco, seis generaciones atrás.
Il y a 5 à 6 générations en arrière.
Mi papá, mi abuelo era francés. On nació en Francia.
Mon aïeu était français. Il est né en France.
Entonces tengo raíces francesas.
J'ai donc des racines françaises.
Desde niño quería venir a Francia.
Et depuis petit, je voulais venir en France.
Y ahora que empezamos la, que llegué a la iglesia.
Et maintenant que qu'il y ait à la iglesia.
Oh, que empezamos la reunión.
Et esta reunión. Sí, esta reunión. Et maintenant que je suis arrivé chez vous.
Empecé a sentir la presencia de Dios muy fuerte.
J'ai commencé à ressentir la présence de Dieu très fort.
Y el Espíritu Santo empezó a hablarme varias cosas.
Et le Saint-Esprit a commencé à me partager différentes choses.
Entonces, quiero empezar a profetizar sobre la nación y sobre esta iglesia.
Donc j'aimerais commencer par prophétiser sur cette nation et sur cette église.
Empecé a sentir la unción muy fuerte de Dios.
J'ai commencé à sentir cette onction très forte du Saint-Esprit.
Y tuve una visión del país.
Et j'ai eu une vision sur le pays.
Y empecé a ver un fuerte viento que venía sobre Francia.
Et j'ai vu un vent fort qui venait sur la France.
Hacía un remolino.
Et qui faisait comme ça, comme un tourbillon.
Muy fuerte.
Très puissant.
Que producía muchos cambios.
Et qui produisait beaucoup de changements.
Primero lo vi en la nación de Francia.
D'abord je l'ai vu sur la nation de France.
Pero después lo vi también dentro de la iglesia.
Mais ensuite je l'ai vu aussi dans l'église.
Yo oía al Espíritu de Dios decir.
Et j'entendais le Saint-Esprit dire.
Yo estoy enviando mi Espíritu Santo.
Je suis en train d'envoyer mon Saint-Esprit.
Para hacer un cambio en la nación y en la iglesia.
Pour établir un changement dans la nation et dans l'église.
Cambiaré su forma de pensar.
Je changerai sa façon de penser.
Cambiaré sus conceptos.
Je vais changer ses concepts.
Cambiaré sus mentalidades.
Je vais changer leur mentalité.
Y lo primero que voy a hacer.
Et la première chose que je vais faire.
Voy a cambiar la forma de pensar de la iglesia.
Je vais commencer par changer la façon de voir de l'église, la façon de penser.
Dice el Espíritu de Dios, y esto producirá un gran cambio social.
Et cela va produire un grand changement social.
Después el Espíritu Santo empezó a recordarme varias cosas de Francia.
Et ensuite le Saint-Esprit a commencé à me rappeler différents éléments de France.
Como Francia ha sido un factor determinante.
Comme la France par exemple qui était un facteur déterminant.
En el pensamiento humano.
Dans la pensée humaniste.
Es conocida Francia como el nacimiento del humanismo.
La France est connue pour la naissance de l'humanisme.
Hubo varios movimientos intelectuales que empezaron en Francia.
Il y a différents mouvements intellectuels qui ont démarré par la France.
Movimientos sociales que empezaron en Francia.
Également des mouvements sociaux qui ont commencé en France.
En 1968.
En 1968.
Empezó un movimiento social dentro de los jóvenes muy fuerte.
Il y a eu ce mouvement social si fort qui a commencé parmi les jeunes en France.
Inició aquí en Francia.
Et il commença donc ici en France.
Pero tuvo un impacto fuerte en muchas naciones en alrededor del mundo.
Mais ensuite, il eut un impact très fort dans beaucoup de nations à travers le monde.
Muchas de las cosas que sucedió en muchos países, entre ellos México.
Perdona.
Mucho de lo que sucedió en muchos países, entre ellos México en el 68.
Ah oui, et dans beaucoup de ces pays et entre autres le Mexique.
Tuvo su origen en una ideología francesa.
On trouvait ce qui s'y est passé dans ces nations a trouvé son idéologie en France.
El tiempo de la ilustración empezó en Francia.
Le temps de la Renaissance a commencé en France. El Renacimiento. Hein, Luc, c'est la Renaissance qui a commencé aussi en France.
Empezó en Francia.
Ça a commencé aussi en France.
Que fue un cambio de visión intelectual.
Et ce mouvement-là était vraiment un changement de vision intellectuelle.
Pero empecé a ver en el espíritu, en mi espíritu.
Et donc j'ai commencé à voir dans mon esprit.
Cómo este moverse fue desviado.
Comment ce mouvement a été dévié.
y produjo conceptos equivocados.
Y ha ensuite produit des concepts erronés.
El Espíritu Santo está soplando sobre la nación.
Et donc le Saint-Esprit est en train de souffler sur la nation.
Sobre la iglesia.
Sur l'église.
Y este soplo está haciendo que este entendimiento intelectual sea corregido o enderezado.
Et on voit vraiment que ce souffle est fait pour redresser à nouveau cette pensée qui avait été tordue.
El origen del renacimiento
et l'origine de la renaissance
estaba basado en volver a renacer en una relación con Dios.
Était en fait, l'objectif était de renaître dans sa relation avec Dieu.
Volver a tener un despertar en el espíritu.
C'était en fait, l'objectif était d'avoir tout à nouveau un réveil dans l'esprit.
Se desvió al humanismo.
Et cela s'est transformé et a été pollué, devenu l'humanisme.
Pero no era lo que Dios quería para esta nación.
Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour cette nation.
Lo que él quería es un mover de Dios que transformara la visión de la humanidad.
Lui, ce qu'il voulait, c'était un mouvement de Dieu qui allait transformer la mentalité de l'humanité tout entière.
Y oigo al Espíritu de Dios decir que en esta generación eso voy a producir en esta nación.
Et j'entendais le Saint-Esprit me dire, eh bien cela, je veux le produire maintenant au travers de cette génération.
Yo produciré un cambio fuerte.
Je vais produire un changement radical.
Y así como en 1960 este movimiento juvenil afectó el mundo.
Et ainsi comme en 1968 ce mouvement de jeunesse a affecté le monde entier.
Yo estoy volviendo a visitar la juventud de esta nación.
Eh bien, je vais une fois encore visiter la jeunesse de cette nation.
Para producir que jóvenes me amen.
Mais afin que cette jeunesse m'aime.
Jóvenes tengan una relación conmigo.
Que les jeunes aient une relation avec moi.
Los jóvenes que producirán las siguientes generaciones en los propósitos de Dios.
Des jeunes qui vont faire que la génération suivante pourra rentrer dans sa destinée.
Yo cambiaré la forma de pensar de esta nación.
Je vais changer la façon de penser de cette nation.
Y la forma de pensar de la iglesia.
Et la façon de penser de l'église.
Dice el Espíritu de Dios porque yo tengo propósito para esta nación.
Parce que moi j'ai une destinée pour cette nation. J'ai des projets pour cette nation.
Da un fuerte aplauso al Señor.
Applaudissons le Seigneur.
Sí, papá. Te amamos. Ponte de pie y levanta tus manos.
Levez-vous et levez vos mains.
Empieza a adorar a Dios.
Et commençons à adorer simplement le Seigneur.
O recedera satara, o sedere sedere, o terecedera sade, o recedere sedete, o terecedera kashede. O recede te 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 recede, o recede te 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 te, o recede te te recede, o recede te 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 te. O recede recede recede. Te bendecimos, papá. Te amamos.
Nous t'aimons, papa.
Aleluya. Pueden sentarse.
Vous pouvez vous asseoir.
Voy a tomar uno o dos minutos para hablar quién soy.
Je vais simplement prendre 2-3 minutes pour vous dire qui je suis.
Soy parte del equipo apostólico de Richard y Fonda Hayes.
Je fais partie donc de l'équipe apostolique de Richard et Fonda Hayes.
Tengo 22 años con él.
Cela fait 22 ans que je marche avec eux.
En el 1988 lo conocí.
Je l'ai connu en 1988.
Dios me habló de unirme a su ministerio.
Et le Seigneur me montra qu'il fallait que je m'unisse à son ministère, que me joigne.
Dos meses después empezamos la iglesia, comunidad CCI.
Et 2-3 mois plus tard, nous avons initié la communauté chrétienne CCI.
Entonces acabamos de cumplir 22 años como iglesia.
Et en fait, on vient de fêter nos 22 ans en tant qu'église.
Y desde entonces he estado con él.
Et donc depuis lors, je me suis tenu avec lui.
Ayudándole primero a establecer la iglesia.
D'abord,
en Monterrey.
Je l'ai aidé pour établir l'église à Monterrey.
Después viajando con él por México, por todo el país de México.
Et ensuite en l'accompagnant dans ses voyages au travers du Mexique.
Y en los últimos años acompañando y viajando con él por Europa.
Et ces dernières années, je l'ai accompagné au travers de l'Europe.
Visitando las iglesias amigas y las iglesias de la red.
Et en visitant les églises amies et les églises du réseau.
Entonces estamos por, como parte del equipo apostólico estableciendo una nueva mentalidad de visión de lo que Dios quiere
et
hacer.
Et donc en tant qu'équipe apostolique, nous sommes en train d'établir cette nouvelle vision que Dieu nous donne pour l'église.
Y para mí es una gran bendición estar en Francia.
Et pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction que de me trouver ici en France.
Sobre todo por lo que Dios está haciendo en esta nación.
Surtout dans ce temps de Dieu pour cette nation.
Quiero dar una enseñanza.
Je voudrais vous apporter cet enseignement
que se llama ciclo de 500.
Qui s'appelle les cycles de 500.
Hace algunos años,
il y a quelques années en arrière,
Dios empezó a hablarme acerca de la historia de la humanidad.
Dieu a commencé à me parler concernant l'histoire de l'humanité.
Y cómo Dios trata con la humanidad.
Et comment Dieu s'occupe de l'humanité, comment il agit dans l'humanité. Combien de temps avons-nous ? Jusqu'à 10h30 ? Il est 9h10. Una hora y media. Hasta las 10 y cuarto. Faut pas qu'on fasse trop court, sinon ça va être difficile à comprendre. Gracias.
Hace tiempo Dios empezó a hablarme, Dios cómo ve eternidad.
Donc Dieu a commencé à me parler de comment il voyait l'éternité.
Y él me mostró que para él la eternidad es un presente continuo.
Et il m'a montré que pour lui l'éternité c'est un présent continuel.
Cuando tú empiezas en eternidad o viene la palabra a tu mente.
Quand toi tu penses à l'éternité et que ce mot te vient à la pensée,
tú piensas de algo muy muy lejano.
Toi tu penses à quelque chose de très loin.
Que no sabes dónde inicia.
Que tu sais même pas où ça commence.
Y algo en el futuro que nunca vas a saber dónde va a terminar.
Et que tu sais pas même où ça va finir, tu sais pas ni d'où ça a commencé ni où ça va finir.
Y tú estás parado en un lugar.
Et alors tu es arrêté là dans un endroit.
Que para donde veas nunca vas a ver el fin.
Et c'est partout où tu regardes, tu n'en vois pas la fin.
Y eso es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos eternidad.
Et en fait, c'est ce qui nous vient à la pensée quand on pense à l'éternité.
Pero cuando Dios piensa en eternidad,
mais quand Dieu lui pense à l'éternité,
piensa de forma diferente.
Il pense autrement.
Y empecé a ver cómo él pensaba o cómo él veía eternidad.
Alors j'ai commencé à voir comment lui pensait au sujet de l'éternité, comment il la voyait.
Y cuando lo entendí, vi algo específico que Dios estaba haciendo.
Et quand j'ai commencé à le comprendre, j'ai vu ce que Dieu était en train de faire spécifiquement.
Déjame ilustrarte de una forma sencilla.
Et je vais vous l'illustrer d'une façon simple.
Es como si yo hiciera una línea sobre esta mesa.
C'est comme si moi je vous traçais une ligne ici sur cette table.
Y eso es eternidad para Dios.
Ça c'est l'éternité pour Dieu.
Él dijo, yo soy el alfa y la omega.
Il a dit, moi je suis le début, je suis la fin, l'alpha, l'oméga.
El principio y el fin.
Le début, la fin.
El primero y el último.
Le premier, le dernier.
El que era, el que es, el que ha de venir.
Celui qui était, celui qui est, celui qui sera.
Para Dios eternidad.
Pour Dieu, l'éternité.
Es algo siempre presente.
C'est quelque chose de toujours présent.
No es un pasado lejano.
Ça n'est pas un passé éloigné.
No es un futuro lejano.
Ce n'est pas non plus un futur
es
éloigné.
Que está delante de él.
C'est quelque chose qui se trouve devant lui.
Como esta mesa.
Comme cette table.
Que está enfrente de mí.
Et qui est devant moi.
Es algo un presente continuo.
C'est un présent continuel.
Imagínate que en esta línea de eternidad,
imaginez cette ligne d'éternité.
Más o menos esto mide como 60 centímetros.
Disons que qui mesure à peu près ses 60 centimètres.
Yo cada 5 centímetros.
Et ben moi chaque 5 centimètres.
Pongo una línea.
Je vais tracer un trait.
Luego otros 5 centímetros y otra línea.
Après 5 centimètres plus loin, je vais mettre un autre repère.
Y cada 5 centímetros voy marcando líneas.
Et je vais marquer, mettre mes repères tous les 5 centimètres.
Estas líneas están todas frente a mí.
Et tous ces repères sont devant moi.
Y en cada línea yo voy haciendo algo específico o poniendo un número progresivo.
Et sur chacun de ces repères, je vais mettre un chiffre progressif.
Es algo que va creciendo continuamente.
Donc c'est quelque chose qui croît sans cesse.
Lo que yo empecé a ver,
et donc ce que j'ai commencé à voir,
es que Dios en cada generación,
c'est que Dieu dans chaque génération,
que sucedía cada 500 años,
qui prenait lieu chaque 500 ans,
ponía su mano y bendecía esa generación.
Il mettait sa main et il bénissait cette génération-là.
Pasaban 500 años,
500 ans plus tard,
y volvía a marcar esa generación.
De nouveau, il marquait cette génération-là et il posait sa main.
Pasaban 500 años,
500 ans plus tard,
y ponía su mano sobre
una. À nouveau, il posait sa main sur cette génération-là.
Y empecé a ver que Dios hacía eso.
Et donc, je me suis aperçu que Dieu agissait comme cela.
Lo encontré en la Biblia.
Je l'ai vu dans la Bible.
Y dije, si está en la Biblia, está en la historia.
Et donc, je me suis dit, si c'est dans la Bible, c'est que c'est dans l'histoire.
Y estaba en la historia.
Et puis, je l'ai trouvé dans l'histoire.
Dije, y si está en la historia, tiene que estar en la ciencia.
Et je me dis, si c'est dans l'histoire, c'est aussi dans la science.
Y lo encontré en la ciencia.
Et je l'ai trouvé aussi dans la science.
Entonces, voy a demostrarte.
Donc, je vais te montrer.
Como cada 500 años,
comment Dieu, tous les, chaque 500 ans,
Dios pone su mano sobre una generación
il
y la
pose
bendice.
Sa main sur une génération donnée et il la bénit.
Te lo voy a demostrar a través de la Biblia.
Je vais te le démontrer au travers de la Bible.
A través de la historia.
Au travers de l'histoire.
Y a través de la ciencia.
Et au travers de la science.
Yo después pensé.
Donc ensuite j'ai pensé.
Si Dios cada 500 años.
Mais si Dieu chaque 500 ans.
Pone su mano en una generación.
Il pose sa main sur une génération donnée.
Y si yo quiero saber,
et que moi je veux savoir,
¿cuándo va a ser la próxima vez?
Quand va être la prochaine visitation?
Que Dios va a poner su mano en una generación.
La prochaine fois où Dieu va poser sa main sur cette génération.
Yo debo de saber.
Eh bien, il me faut savoir.
¿Cuándo fue la última vez que Dios puso su mano sobre una generación?
Quelle a été la dernière fois où Dieu a posé sa main sur une génération donnée?
Si él lo va a hacer cada 500, lo
parce
hace cada
que
500
ans. S'il le fait chaque 500 ans.
Y puedo saber cuándo fue la última vez que lo hizo.
Et que je peux arriver à savoir quelle était la dernière fois où il l'a fait.
Podré saber cuándo es la próxima vez que Dios va a tratar con una generación.
Alors, je peux savoir quand il le fera la prochaine fois.
Porque es cada 500 años.
Parce que c'est chaque 500 ans.
¿Cuándo fue la última vez que Dios puso su mano?
Alors, quand est-ce que ça a été cette dernière fois où Dieu a posé sa main?
Cuento los años que van.
Ensuite, comptons les années depuis ce temps-là.
Y podré saber cuándo es el próximo.
Et alors, je pourrai savoir le temps qui reste.
Porque, por lo menos yo,
car pour moi, en tout cas,
no voy a poder vivir 500 años.
Je vais pas pouvoir vivre 500 ans.
No sé tú.
Toi, je sais pas, mais moi non.
Yo quería estar en una de esas generaciones.
Moi, j'aurais bien voulu être dans une de ces générations-là.
Pero no sabía si iba a alcanzar a vivir o no.
Mais je savais pas si j'allais vivre assez longtemps pour le voir ou pas.
Por eso quise saber cuándo fue la última vez.
Et c'est pour ça que je voulais savoir quelle était la dernière fois où cela était arrivé.
Para saber cuándo iba a ser la próxima.
Afin que je puisse savoir quelle allait être la suivante.
Ecclésiastes capítulo 3.
Dans Ecclésiaste au chapitre 3.
Versículo 15 dice.
Au verset 15, il est dit
que no hay nada nuevo debajo del sol.
Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Todo lo que es hoy,
tout ce qui a eu lieu aujourd'hui,
ya fue en el pasado,
a déjà eu lieu dans le passé.
Ya sucedió en el pasado.
Ça s'est déjà passé dans le passé.
Todo lo que pasó,
et tout ce qui se passa dans le
volverá
passé,
a venir.
Eh bien, arrivera à nouveau.
Empieza a hablarnos que la vida es a través de círculos o ciclos.
Et c'est là où en fait la Bible nous parle de cycles.
Acontecimientos que se van repitiendo con el tiempo.
Des événements qui se répètent dans le temps.
No hay nada nuevo debajo del sol.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Lo que estamos viviendo hoy,
ce que nous vivons aujourd'hui,
ya lo habíamos vivido hace años en la humanidad.
A déjà été dans le passé dans l'humanité.
Lo que vivimos hace algunas décadas,
ce que nous avons vécu il y a des décennies en arrière,
otras generaciones lo volverán a vivir en el futuro.
D'autres générations le vivront à leur tour dans le futur.
Porque no hay nada nuevo debajo del sol.
Parce que j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure toujours et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Son repeticiones de acontecimientos y moveres de Dios.
Ce sont des répétitions de mouvements de Dieu.
Entonces,
¿lo leo en francés?
No, solo quería mencionarlo. Solo quiero utilizar ese texto.
Je voulais simplement utiliser ce texte
para mencionar que la vida es cíclica.
Pour vous mentionner, vous montrer que la Bible est cyclique.
También lo vemos, otro de los ciclos que vemos.
Et nous voyons aussi au travers des siècles.
Es el ciclo del día y la noche.
C'est le cycle du jour et de la nuit.
Tú sabes que mañana o dentro de unas aproximadamente 9 horas.
Tu sais que le jour va à peu près dans 9 heures.
Va empezar a amanecer.
Eh bien, le jour va se lever.
Entre 6 y 7 de la mañana el sol va a salir.
Entre 6 et 7 heures du matin, le soleil va se lever.
Como eso de las 8 de la noche va a empezar a oscurecer.
Comme à peu près vers 8 heures du soir, eh bien, le soleil va disparaître.
Y eso va a volver a pasar por miles de años.
Et cela va se passer d'année en année pendant des millénaires.
Porque la tierra está dando vueltas.
Parce que en fait la terre tourne sur elle-même.
Y al estar dando vueltas.
Et alors qu'elle tourne,
da lugar al día y la noche.
Eh bien cela donne naissance au jour et à la nuit.
Es un ciclo natural de la vida.
C'est un cycle naturel de la vie.
Hay otro ciclo que es el ciclo de traslación de la tierra.
Y un otro ciclo, el ciclo de la translación de la tierra,
que da lugar a las 4 estaciones del año.
Qui va donner naissance, qui provoque les 4 saisons de l'année.
Por ejemplo, ahorita estamos en otoño.
Pourquoi sommes-nous en automne?
Unos 3 meses después va a empezar el invierno.
Et bien dans 3 mois à peu près, c'est l'hiver qui va commencer.
Después va a venir la primavera.
Ensuite, il y aura le printemps.
Y después el verano.
Et ensuite ce sera l'été.
Y va a volver a regresar el otoño.
Et l'automne sera de retour tout à nouveau.
Lo sabemos.
Nous le savons.
Van a dar las estaciones, las 4 estaciones del año.
Les 4 saisons vont se succéder les unes après les autres.
Sucedió el año pasado.
Cela est arrivé l'année dernière.
Sucederá el próximo año.
Ça arrivera l'année prochaine.
Habrá primaveras.
Il y aura des printemps.
Habrá inviernos.
Y aura des hivers.
Es todo es rotativo.
Tout tourne, tout est rotatif.
También hay ciclos de cada 500 años.
Et il y a donc ainsi aussi des cycles de 500 ans.
Tal vez tú digas, nunca me han enseñado esos ciclos.
Mais vous allez peut-être vous dire, mais moi on m'a jamais parlé de ces cycles.
Nunca los he escuchado.
J'en ai jamais entendu parler.
Eso no quiere decir que no existan.
Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Eso no quiere decir que no sean verdaderos.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont véritables.
Eso no quiere decir que no estén en la historia.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trouvent pas dans l'histoire.
O estén en la Biblia.
Ou qu'ils ne se trouvent pas dans la Bible.
O estén en la ciencia.
Ou qu'ils ne soient pas dans la science.
Simplemente no los habíamos visto.
Simplement, on ne les avait pas vus.
Pero siempre han estado ahí.
Mais pourtant, ils ont toujours été là.
Y cuando uno lo descubre,
et quand quelqu'un les découvre,
uno se da cuenta del gran poder de Dios.
Alors on réalise la toute-puissance de Dieu.
Y de un propósito glorioso para la humanidad.
Et on découvre ces projets glorieux pour l'humanité tout entière.
Tu mentalidad cambia.
Alors ta mentalité change.
Respecto a quién eres tú en Dios.
Par rapport à qui tu es toi en Dieu.
Qu'est-ce une nation para Dios?
Et qu'est-ce qu'une nation pour Dieu?
Si quiero empezar a hablarles de este ciclo,
et donc, alors que je commence à vous parler de ces cycles,
y empieza en Génesis,
et j'aimerais commencer dans la Genèse,
capítulo 5,
au chapitre 5.
Lea los primeros 4 versículos de Génesis.
Les 4 premiers versets du chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles et tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans puis il mourut.
Es interesante lo que dice Génesis.
Il est intéressant de voir ce que nous dit la Genèse.
Es Génesis 5 del 1 al 4.
Donc c'est Genèse 5 du verset 1 à 4.
Empieza diciendo, este es el inicio de las generaciones.
Et il nous dit au premier verset, voici le début des générations.
El día en que Dios creó al hombre.
Le jour où Dieu créa l'homme.
Varón y hembra los creó.
Il les créa homme et femme.
Pero nos dice que Adán tenía 130 años.
Mais il nous dit là que Adam avait 130 ans.
Entonces, el primer ciclo.
Donc le premier cycle
empieza cuando Adán tiene 130 años de edad.
Commence alors qu'Adam a 130 ans.
Y dice que Adán tuvo un hijo que llamó su nombre Seth.
Et il dit que là Adam a eu un fils qu'il appela Seth.
Cuando yo leí esto,
quand j'ai lu cela,
me llamó la atención.
Et cela m'attira mon attention.
Porque tú sabes que Génesis 5,
parce que tu sais bien que Genèse 5
no es el inicio de los hijos de Adán y Eva.
Ce n'est pas le début des enfants de Adam et Ève.
Que el primer hijo de Adán y Eva no fue Seth.
Que le premier fils d'Adam, ça n'était pas Seth.
Sino fue Abel y Caín y Abel.
C'était Caïn et Abel.
Pero Génesis 5 dice que es el inicio.
Mais là, Genèse 5 nous dit que c'est le début.
O el principio de algo.
Ou le début de quelque chose.
Cuando yo estaba leyendo la Biblia.
Et donc alors que je lisais la Bible.
¿Por qué dice el principio de las generaciones?
Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit le début des générations?
Si esa no fue la primera generación.
Puisque ce n'était pas lui la première. À moins que ce ne soit lui la première.
Porque en el capítulo 4 ya existía, los dos primeros hijos de Adán eran Caín y Abel.
Parce que dans le chapitre 4, on voit que Adam avait déjà eu deux enfants, Caïn et Abel.
O dije, ¿o es el inicio de un mover de Dios nuevo?
Alors je me suis dit, si c'est pas le début de sa postérité, donc c'est le début d'un nouveau mouvement.
Y así era el inicio de los ciclos de Dios.
Et en effet, c'était le début des cycles.
Donde Dios empieza a tratar con la humanidad.
Où Dieu commence à traiter avec l'humanité.
Dice que el primer hijo de Adán fue Seth.
Donc il nous dit que le premier fils d'Adam fut Seth.
La palabra Seth significa nombrado o asignado.
Et Seth veut dire assigné, nommé.
También puede ser traducido como sustituto.
On peut aussi le traduire par substitut.
Sustituto de quién?
Substitut de qui?
Si tú lees el capítulo 4 de Génesis.
Et si tu lis le chapitre 4 de la Genèse.
Caín, Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel.
Donc Adam avait eu les deux premiers fils, Caín et Abel.
Y llegó el momento en que estos muchachos iban a tener una relación con Dios.
Et alors que ces deux jeunes commençaient à avoir une relation avec Dieu.
Iban a empezar a tener contacto con él.
Ils commencent à avoir un contact avec lui.
Y cada uno de ellos trajo su ofrenda a Dios.
Et chacun d'entre eux a amené son offrande à Dieu.
Caín se dedicó al campo.
Caïn, lui, s'était occupé des champs.
Fue agricultor.
Il était agriculteur.
Y cuando iba a traer su ofrenda a Dios,
et alors qu'il apportait son offrande,
dice que tomó lo primero que encontró en el camino.
Il est dit qu'il a pris la première chose qu'il trouva sur son chemin.
Tal vez encontró unas calabazas.
Peut-être il a trouvé des courges.
Y dijo, ah, esas son buenas, se las llevo a Dios.
A dit, ah, voilà, celles-là, elles sont bien, je vais les apporter à Dieu.
Porque se las encontró en el camino.
Simplement parce qu'il les a trouvées sur son chemin.
Abel se dedicó a criar ovejas.
Et Abel, lui, était éleveur.
Pero no agarró lo primero.
Mais lui, il n'a pas pris le premier.
Génesis capítulo, Hebreos capítulo 11.
Dans Hébreux 11,
versículo 3,
au verset 3,
dice que Abel por la fe.
Il est dit que Abel, par la foi,
ofreció más excelente sacrificio que su hermano Abel.
A offert un sacrifice plus excellent que son frère.
Abel, que su hermano Caín.
Que son frère Caïn.
Ofreció más excelente sacrificio.
Il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
Porque Abel no tan solo agarró lo primero que encontró.
Parce que Abel, non seulement il avait pris la première chose qu'il avait trouvée.
O lo primero que nació.
Ou le premier né.
Tomó lo mejor.
Mais il prit le meilleur et pas seulement le premier né.
Y me imagino que Abel hizo esto.
Et je suppose que Abel fit cela.
Iba a traer una ofrenda a Dios.
Il voulait apporter une offrande à Dieu.
Vio una oveja que era de las primeras que había nacido.
Il voit une des premiers nés.
Era una muy buena oveja.
C'était vraiment une belle brebis.
La tomó.
Il la prend.
Iba para sacrificarla.
Il allait pour l'amener, pour la sacrifier.
Y en eso ve otra oveja.
Et ensuite, il en voit une autre.
Que también había, era de las primeras que había nacido.
Qui faisait aussi partie des premiers nés.
Pero estaba más bonita que esta.
Mais elle était plus belle que celle qu'il avait prise.
vio la que tenía en sus manos.
Alors il a regardé celle qu'il portait déjà dans les bras.
Y vio aquella.
Et il a vu l'autre.
Y dijo, esa está más bonita que esta.
Et il dit, oh, mais l'autre, elle est mieux.
Dejó esta y tomó la más bonita.
Alors il a déposé le premier qu'il avait saisi et porque, il prit l'autre.
Porque Abel dijo, no tan solo le voy a dar lo primero.
Parce qu'il avait dit, non seulement je veux donner les prémices,
le voy a dar lo mejor.
Mais je veux donner aussi le meilleur.
Entonces, bajó esta y tomó la mejor.
Donc il posa la première brebis et il chercha, il prit la deuxième.
Y se la ofreció a Dios.
Et il l'offrit à Dieu.
Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel.
Et il est dit que Dieu approuva l'offrande d'Abel. Il en prit plaisir. Et Caïn s'en aperçut.
Que la réaction de Dios con la ofrenda de él y la de su hermano no era la misma.
Il s'aperçut que la réaction de Dieu n'avait pas été la même.
Y se enojó.
Et alors il se fâcha.
Viene Dios con Caín y le dice, ¿qué tienes, Caín?
Alors Dieu s'approcha de Caïn et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Caïn?
¿Por qué estás enojado?
Pourquoi t'es fâché comme ça?
No, no estoy enojado.
Non, je suis pas fâché.
Si, si estás enojado, estás molesto.
Mais si, je vois bien que tu vas pas bien.
Es que tú no viste de la misma forma mi ofrenda que mi hermano.
Mais j'ai bien vu que tu n'as pas considéré mon offrande comme celle de mon frère.
Entonces Dios le dice a Caín, haz lo correcto y tendrás recompensa.
Et alors Dieu répond à Caïn, fais les choses correctement et tu auras la juste récompense.
Como quiera el pecado está a la puerta y tú lo dominarás.
Il dit alors que le péché couche à ta porte, domine sur lui.
Pero es tu decisión, Caín.
Mais c'est ta décision, Caïn.
Entonces Caín dice, está bien, Dios.
Et Caïn dit, d'accord, Seigneur.
J'ai entendu.
J'ai compris.
Tu quieres un sacrificio.
Toi, tu veux un sacrifice.
Tu quieres una víctima inocente.
Tu veux une victime innocente.
Tu quieres sangre.
Tu veux du sang.
Mi hermano te trajo una sangre.
Eh bien, mon frère va être ce sang.
Porque él sacrificó al corderito, a la oveja.
Ah non, mon frère t'a apporté le sang parce que lui, il a sacrifié l'agneau.
J'ai entendu.
J'ai compris.
Te voy a dar lo que tú quieres.
Je vais te donner ce que tu veux.
Entonces, Caín le dice a Abel.
Et donc Caïn dit à Abel.
Te invito al campo, vamos, quiero enseñarte algo que sembré.
Dis, viens donc au champ, je voudrais te montrer quelque chose.
Y estando en el campo.
Et alors qu'ils sont au champ.
Caín se levanta y mata a Abel.
Caïn se lève et tue Abel, son frère.
Y derrama su sangre en la tierra.
Et il répand son sang sur la terre.
Entonces, Dios viene y le pregunta a Caín.
Et alors Dieu vient et il pose la question à Caïn.
¿Dónde está tu hermano Abel?
Où est ton frère Abel?
No sé.
Je ne sais pas.
No lo he visto.
Je l'ai pas vu.
No, yo no lo voy a andar cuidando.
Je suis pas donc le gardien de mon frère.
¿Qué has hecho, Caín?
Qu'as-tu fait, Caïn?
La sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra.
Le sang de ton frère crie justice depuis la terre.
Hébreux 11:4.
Et Hébreux 11:4.
Dice que Abel ofreció más excelente sacrificio.
Nous dit que Abel offrit un sacrifice plus excellent.
Dando testimonio que él era justo.
Donnant témoignage qu'il était juste.
Y muerto a él, su sangre clamaba justicia desde la tierra.
Et voilà que maintenant son sang crie de la terre.
Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano está pidiendo justicia.
Et donc Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie justice.
¿Por qué Abel ofreció más excelente sacrificio?
Pourquoi Abel avait-il offert un sacrifice plus excellent?
Ese sacrificio hablaba de quién era Abel.
Parce que ce sacrifice nous parlait de qui était Abel.
Era el resultado de su identidad.
C'était le résultat de son identité, le fruit de son identité.
En primera de Juan.
Et dans 1 Jean.
3, capítulo 3, versículo 12.
Chapitre 3 au verset 12.
Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel.
Il nous est dit que Dieu considère avec joie l'offrande d'Abel.
Y no así la de su hermano Caín.
Et ce n'est pas le cas pour celle de Caïn.
Y después pregunta, ¿y por qué no vio con agrado la ofrenda de de Caïn?
Et pourquoi n'a-t-il pas considéré avec plaisir l'offrande de Caïn?
Porque las obras de Caïn eran malas y la de su hermano justas.
Parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises alors que les œuvres de son frère étaient justes.
Nos está diciendo algo importante.
Donc là, il nous dit quelque chose d'important.
Abel, por ser justo,
Abel, parce qu'il était juste,
et ofreció un excelente sacrificio,
il a pu offrir un sacrifice excellent.
Hablaba quien era él.
Parce que son sacrifice parlait de qui il était lui.
Hablaba de su identidad.
Il parlait de son identité.
Por eso su sangre clamaba justicia.
Et c'est pour ça que son sang criait justice.
Después, Eva,
ensuite, Ève
tiene otro hijo llamado Seth.
Eut un autre fils appelé Seth.
Y cuando nace Seth,
et à la naissance de Seth,
Eva dice algo importante.
Là, Ève dit quelque chose d'important.
Dios me ha dado un hijo,
Dieu m'a donné un fils
en sustitución,
en substitution
de Abel, el cual mató Caín.
En substitution d'Abel qui avait été tué par Caïn.
Esto es importante,
donc là, c'est important
porque todos los logros de Abel fueron dados a Seth.
Parce qu'en fait, toutes les capacités, los logros...
Las capacidades.
Toutes les capacités d'Abel ont été transmises à Seth.
Por eso Seth significa nombrado o sustituto.
Et c'est pour ça que Seth s'appelle substitut ou nommé.
La justicia del hermano mayor de Seth, el cual era Abel.
Donc la justice de son frère aîné, Abel,
fue dado a Seth.
Lui a été donnée à Seth.
Y el último versículo del capítulo 4 de Génesis.
Et dans le dernier verset du chapitre 4 de la Genèse,
dice que Seth tuvo un hijo.
Il nous est dit que Seth eut un fils.
Y cuando nació el hijo de Seth,
et quand le fils de Seth naquit,
los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios.
Les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel.
O los hombres empezaron a tener una relación con Dios.
Ou on peut dire aussi que les hommes ont commencé à avoir une relation avec Dieu.
Eso es importante.
Et cela est important.
Porque Seth engendra una generación.
Parce qu'en fait, on voit que là, Seth engendre une génération.
Que empieza a tener contacto y comunión con Dios.
Qui commence à avoir un contact, une communion avec Dieu.
Porque tenía la justicia de su hermano mayor.
Parce qu'il avait reçu la justice de son frère aîné.
El siguiente ciclo,
donc le cycle suivant,
lo encontramos 500 años después,
on le trouve 500 ans plus tard
en Genesis, capítulo 15,
dans Genèse au chapitre 5.
En el versículo 18,
au verset 18
y luego del 22 al 24.
Et ensuite du 22 au 24. Lo leo.
Sí, por favor.
Jared, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans.
Ok. Este ciclo son 500 años después.
Et donc ce cycle commence 500 ans plus tard.
Adán tenía aproximadamente 630 años de edad cuando nació Enoch.
Adam avait plus ou moins 630 ans quand Enoch naquit.
Dice que nació Enoch.
Il nous est dit donc là que Enoch naquit.
Y Enoch no tan solo tenía una relación con Dios.
Et Enoch non seulement il avait une relation avec Dieu.
Versículo 24 dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Mais il est dit au verset 24 qu'Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit.
No tan solo tuvo una relación, pero donc, caminó con Dios.
Donc non seulement il eut une relation avec Dieu, mais il marcha avec Dieu.
La palabra caminar en hebreo.
Et la parole marcher en hébreu.
Significa pensar como Dios piensa.
Veut dire penser comme Dieu pense.
Ver como Dios ve.
Voir comme Dieu voit.
Actuar como Dios actúa.
Et agir comme Dieu agit. Agir comme Dieu agit.
Enoch no tan solo tuvo una relación con Dios.
Donc Enoch non seulement il eut une relation avec Dieu.
Pero iba en la misma dirección de Dios.
Mais il marcha dans la même direction que Dieu.
Veía como Dios veía.
Il voyait comme Dieu.
Hablaba como Dios hablaba.
Il parlait comme Dieu.
pensaba como Dios
pensaba. Il pensait comme Dieu.
Iba en tiempo y espacio con Dios.
Et il marchait dans le temps et dans l'espace avec Dieu.
Y dice que no murió.
Et il nous a dit qu'il n'est pas mort.
Sino Dios se lo llevó.
Mais que Dieu le reprit.
En Hebreos 11, capítulo 5.
Et dans Hébreux 11, au chapitre 5.
Dice que por la fe Enoch no vio muerte.
Il nous est dit que Enoch par la foi ne vit pas la mort.
Y fue llevado por Dios.
Et qu'il fut emporté par Dieu.
Pero antes de ser llevado,
mais avant d'être emporté,
dio testimonio de haber agradado a Dios.
Il donna le témoignage d'avoir été agréable à Dieu.
O vivió una vida que agradaba completamente a Dios.
Ou on peut dire qu'il vécut une vie qui était entièrement agréée par Dieu.
Hubo algo que Dios vio en Enoch.
Il y eut quelque chose que Dieu vit en Enoch.
Que Dios se agradó de él.
Qui lui plut.
11, 5.
Verset 11, chapitre 11, verset 5.
Il dit que dio testimonio de haber agradado a Dios.
Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
¿Qué fue lo que Dios vio en Enoch que le agradó?
Et qu'est-ce que Dieu vit en Enoch qui lui fut agréable?
Piensa un momento, ¿cómo Dios veía Enoch?
Pensons-y un instant, comment Dieu voyait-il Enoch?
Y decía, la forma en que él está viviendo.
Et dans quelle forme de vie vivait-il?
La forma que él está pensando.
Dans sa façon de penser.
Me agrada.
Il disait, cela me plaît.
Y yo quiero que esté conmigo.
Et je veux qu'il reste avec moi.
Lo voy a salvar.
Aussi, je vais le sauver.
Antes de ser llevado,
et avant d'être emmené,
dio testimonio de haber agradado a Dios.
Il donna ce témoignage d'avoir été agréable à Dieu.
En Judas nos dice que es lo que vio Dios.
Et dans Jude, il nous est dit ce que Dieu vit.
14, versículo 14 y 15.
En hebreo, siempre.
Judas.
Ah non, dans Jude. Hein.
Judas 14 et 15.
Jude 14, 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.
Nos dice que esto fue lo que profetizó Enoch, séptima generación de Adán.
Il nous a dit, voilà ce que prophétisa Enoch, qui était la septième génération depuis Adam.
El primer profeta en la Biblia es Enoch.
Donc le premier prophète de la Bible, c'est Enoch.
Y en la séptima generación desde Adán.
Et dans la septième génération depuis Adam.
El número siete en la Biblia en hebreo.
Et dans le nombre 7 pour les en hébreu.
Viene de una raíz que significa algo perfecto, completo y perpetuo.
Vient d'une racine qui veut dire quelque chose de parfait, de perpétuel. Perfecto.
Perfecto, completo y perpetuo.
Et complet. Parfait, complet et perpétuel.
Perfecto, que no le falta nada.
Parfait veut dire qu'il ne lui manque rien.
Completo.
Complet.
Que no le falta nada.
Qu'il ne lui manque rien non plus.
Perpetuo.
Perpétuel.
Es que es para siempre.
Qui veut dire pour toujours.
Él profetizó.
Donc il prophétisa.
¿Qué fue lo que profetizó?
Et que prophétisa-t-il?
Dios viene con su ejército.
Dieu vient avec son armée.
Y va a juzgar la humanidad.
Et il va juger toute l'humanité.
Va a juzgarlo por sus obras impías.
Et il va juger ses œuvres impies.
Por la impiedad.
À cause de l'impiété.
Que han hecho impíamente.
Qu'ont fait les impies.
Por toda impiedad de ellos.
Et pour toutes leurs impiétés.
Si tú lees el versículo 15,
si tu lis le verset 15,
cuatro veces usa la palabra impiedad.
Il va utiliser quatre fois le mot impiété.
¿Qué significa impiedad?
Et qu'est-ce que ça veut dire les œuvres impies? L'impiété.
La raíz de impiedad en hebreo.
La racine d'impie en hébreu.
Es no ser justo.
Est ne pas être juste.
La medida en que Dios va a juzgar una nación.
Donc la mesure avec laquelle Dieu va juger une nation.
Es eres o no eres justo.
C'est selon s'il est juste ou injuste.
Eres o no eres perfecto.
Es-tu ou n'es-tu pas parfait?
Estás o no estás completo.
Es-tu ou n'es-tu pas complet?
Es la forma en que Dios va a juzgar la nación.
C'est de cette façon-là que Dieu va juger une nation.
Porque Enoch pensaba como Dios piensa.
Et parce que Enoch pensait comme Dieu pense.
Veía como Dios veía.
Il voyait comme Dieu voit.
Por eso caminaba con Dios.
Et c'est pour cela qu'il marchait avec Dieu.
Y Dios lo salva a él.
Aussi Dieu le sauve.
Seth ofreció un excelente sacrificio.
Donc Seth offrit un sacrifice excellent.
Dando testimonio que él era justo.
Témoignant qu'il était juste.
Enoch dice, Dios va a juzgar la nación.
Enoch dit, Dieu va juger la nation.
Eres, si eres o no eres justo.
Selon si elle est juste ou pas.
El tercer ciclo.
Le troisième cycle.
Es en Génesis capítulo 5.
On le trouve toujours dans Genèse au chapitre 5.
Versículo 29 y 32.
Au verset 29 et 32, il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. »
Empieza con Noé.
Donc ce cycle commence avec Noé.
Aproximadamente 200 años después que Adán había muerto.
À peu près 2 ans après la mort d'Adam.
Adán ya murió cuando nació Noé.
Donc Adam était mort lorsque Noé naquit.
Tenía más o menos como 200 años de haber muerto Adán.
Depuis à peu près 200 ans.
Noé significa consuelo, descanso.
Donc Noé veut dire consolation, repos.
Voy a hacer unos movimientos. Cuando hay varias cosas que la Biblia nos dice de Noé.
Il y a différentes choses que la Bible nous dit sur Noé.
Capítulo 6, versículo 9, mira lo que nos dice de Génesis.
Au chapitre 6 de la Genèse, au verset 9, il nous dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. »
Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Ya lo leí.
Ok. Lo que nos está diciendo,
donc ce qu'il est en train de nous dire,
que no tan solo era justo y perfecto
que él, non seulement il était juste et parfait,
pero toda su generación era justa y perfecta,
mais que toute sa génération l'était aussi.
Y con Dios caminó Noé.
Et qu'ainsi il marcha aussi avec Dieu.
¿Quién había caminado antes con Dios?
Qui avait marché auparavant avec Dieu?
Enoch.
Enoch.
Empecé a ver que había algo progresivo.
Ainsi, je vis qu'il y avait là quelque chose de progressif.
Que un ciclo me llevaba a otro ciclo.
Qu'un cycle m'amenait à un autre cycle.
Y luego a otra verdad.
Et ensuite à une autre vérité.
Era como ir subiendo una escalera.
C'est comme si l'on montait un escalier.
Paso por paso.
Une marche après l'autre.
O un escalón a otro.
Un pas après l'autre.
Enoch había caminado con Dios.
Enoch avait marché avec Dieu.
Y Dios lo había salvado.
Et il avait été sauvé, lui seul.
Pero ahora Noé no tan solo camina con Dios.
Mais maintenant, non seulement Noé marche avec Dieu.
Pero es justo y perfecto con todas sus generaciones.
Mais il est juste et parfait ainsi que toute sa génération.
Su esposa y sus hijos también son justos y perfectos.
Sa femme, ses enfants sont justes et parfaits aussi.
Ahora no tan solo es una persona.
Donc maintenant, ce n'est pas seulement une personne.
Son varias personas quien Dios le está salvando.
Mais ce sont différentes personnes que Dieu est en train de sauver.
Mira lo que dice Génesis 7:1.
Et voyons dans Genèse 7 au verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.
Entra tú y toda tu casa.
Entre toi et toute ta maison.
No tan solo te voy a salvar a ti.
Je ne vais pas te sauver toi seul.
Como salvé a Enoch.
Comme j'ai sauvé Enoch.
Voy a salvar a tus hijos y a las esposas de tus hijos.
Mais je vais aussi sauver tes fils et leurs femmes.
Era varón justo y perfecto en todas sus generaciones.
Il était un homme juste et parfait ainsi que ses générations.
Entra en el arca.
Donc il entre dans l'arche.
Porque a ti te he visto justo.
Parce que je t'ai vu juste.
cosas. Este tercer ciclo es cuando Noé nace y tiene una generación justa.
Donc le troisième cycle c'est à la naissance de Noé et sa génération, ceux qui étaient avec lui qui étaient justes aussi.
El cuarto ciclo.
Le quatrième cycle.
Está en Génesis 5.
Et en Genèse 5.
Cuando Dios le dice a Noé que empiece a construir el arca.
En el 5.
32.
No, 5 no puede ser.
Sí, 5:32.
Ah, sí. Quand 5:32, quand Dieu lui demande de commencer l'arche.
Cuando Noé tenía 500 años de edad.
Quand Noé avait 500 ans.
Era un jovencito de 500 años.
C'était un jeune homme de 500 ans.
Dios le dice.
Dieu lui dit.
Construye un arca.
Construye una arche.
Dios en el desierto un gran barco.
Et dans un Dieu dans un désert, tu veux une arche, un bateau?
Aquí no hay agua.
Mais il y a pas d'eau ici.
¿Para qué voy a hacer un arca?
Pourquoi faire une arche?
En el desierto.
En plein désert.
No estamos en el mar.
On n'est pas dans la mer.
No tiene caso.
Il y a pas de raison.
Construyela porque va a llover.
Construis-la car il va pleuvoir.
Va que Dios.
Quoi? Dieu, il va quoi?
Va a llover.
Il va pleuvoir.
Dios, ¿qué es llover?
Et c'est quoi pleuvoir?
Es que del cielo va a caer agua.
Cela veut dire qu'il y a de l'eau qui va tomber du ciel.
Del cielo qué va a caer?
Il va tomber quoi du ciel?
Va a caer agua.
C'est de l'eau qui va tomber du ciel.
Dios, yo nunca he visto llover.
Mais Seigneur, moi j'ai jamais vu de l'eau tomber du ciel.
Porque antes que viniera el diluvio, no llovía en la tierra.
Parce qu'avant le déluge, il n'avait jamais plu sur la terre.
Dios, yo nunca he visto llover.
Mais Dieu, moi j'ai jamais vu de pluie.
Adán nunca vio llover.
Adam n'a jamais vu de pluie.
Abel nunca vio llover.
Abel n'avait jamais vu de pluie.
Seth nunca vio llover.
Seth non plus n'avait jamais vu de pluie.
Enoch nunca vio llover.
Et Enoch non plus n'avait pas vu
Dios,
de pluie.
Dios, esto no es tuyo.
Mais ça, c'est Dieu, c'est pas de toi.
Porque si fuera tuyo.
Parce que si c'était de toi.
Adam lo hubiera dicho.
Adam l'aurait vu. Adam l'aurait vu.
Enoch lo hubiera profetizado.
Et Enoch l'aurait prophétisé.
Pero Enoch no profetizó la lluvia.
Mais il a pas prophétisé la pluie.
Noé, yo estoy enviando la lluvia.
Noé, c'est moi qui envoie la pluie.
Está bien, Dios.
Ok, Seigneur.
Voy a empezar a construir un barco.
Je commence à construire l'arche alors.
Y Noé se tardó 100 años en construir un barco.
Et il a mis 100 ans pour construire son arche.
Sus amigos venían y decían.
Et ses amis venaient et lui disaient.
¿Qué haces, Noé?
Mais qu'est-ce que tu fais donc,
Estoy
Noé?
Estoy haciendo un barco.
Je construis une barque.
Un barco aquí en el desierto.
Un bateau ici dans le désert.
Aquí no hay agua.
Mais il y a pas d'eau ici.
Aquí no hay mar.
Il y a pas de mer.
¿Por qué lo estás haciendo en el desierto?
Pourquoi tu le fais dans le désert?
Porque va a llover.
Mais parce qu'il va pleuvoir.
¿Va qué?
Il va quoi?
Va a caer agua del cielo.
Il va tomber de l'eau du ciel.
Non, Noé, tu estás mal.
Mais non, Noé était complètement
Nunca
tombé sur la tête.
Agua del cielo.
Il n'est jamais tombé d'eau du ciel.
Eso no es de Dios.
Ça, c'est pas de Dieu.
Porque si fuera de Dios,
parce que si c'était de Dieu,
lo hubiera profetizado Enoch.
Enoch l'aurait prophétisé.
Me lo hubiera enseñado Adán.
Et Adam nous l'aurait enseigné.
Seth lo hubiera dicho.
Seth l'aurait dit.
No es de Dios.
Non, non, c'est pas
Porque
de Dieu.
Nadie lo ha enseñado.
Parce que personne ne l'a enseigné.
Aquí hay un principio.
Et là, il y a un principe.
El hecho que nunca lo hayas visto.
Le fait que tu ne l'aies jamais vu.
El hecho que no lo hayas oído.
Le fait que tu n'en aies jamais entendu parler.
El hecho que nadie te lo haya enseñado.
Le fait que personne ne te l'ait enseigné.
No quiere decir que no venga de Dios.
Cela ne veut pas dire que cela ne vient pas de Dieu.
La lluvia le enviaba Dios.
La pluie, c'est bien Dieu qui l'envoyait.
Aunque nunca nadie había visto.
Même si personne jusque-là ne l'avait vu.
Y durante 100 años,
et donc pendant 100 ans,
Noé estuvo predicando.
Noé prêcha.
Mucha gente piensa que la predicación de Noé.
Beaucoup pensent que la prédication de Noé.
Era arrepentimiento.
Consistait dans la repentance.
Arrepiéntanse.
Repentez-vous.
Porque Dios va a tener juicio a la humanidad.
Parce que Dieu va amener le jugement sur l'humanité.
Arrepiéntanse, pecadores.
Repentez-vous, pécheurs.
Noé no predicó arrepentimiento.
Non, non, Noé n'a pas prêché la repentance.
Otros piensan,
d'autres pensent,
que Noé predicaba juicio.
Que Noé prêchait le jugement.
Dios va a tener castigo a la humanidad.
Dieu va châtier l'humanité.
Dios te va a castigar.
Dieu va te châtier.
Dios no, Noé no predicaba juicio.
Non, Noé ne prêchait pas le jugement.
¿Qué predicó Noé?
Alors qu'a-t-il donc prêché?
En Pedro nos dice lo que predicó.
Eh bien, cela nous est dit dans Pierre.
El primer evangelista en la Biblia es Noé.
Le premier évangéliste de la Bible, ce fut Noé.
Segunda de Pedro 2:5.
Dans 2 Pierre 2:5.
Noé es el primer evangelista. Y predicó durante 100 años.
Donc il fut le premier évangéliste et il prêcha pendant 100 ans.
2:5. Segunda de Pedro 2:5.
S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies,
predicó justicia.
Il prêcha la justice.
Predicó justicia.
Il prêcha la justice.
Es lo único que predicaba.
C'était la seule chose qu'il a prêché.
¿Por qué tantos años predicando justicia?
Et pourquoi a-t-il prêché pendant si longtemps la justice?
No era un simple mensaje.
C'était pas un simple message.
Sino algo que Dios estaba diciendo.
Mais c'était quelque chose que Dieu était en train de dire.
Entonces, predicó justicia por 100 años.
Donc il a prêché la justice pendant 100 ans.
Y Hebreos capítulo 11.
Et dans Hébreux au chapitre 11.
Versículo 7.
Au verset 7,
dice que recibió la herencia que viene por la justicia a través de la fe.
Il nous est dit qu'il reçut l'héritage au travers la justice par la foi.
La herencia, recibió una herencia de justicia.
Il reçut un héritage de justice.
¿A cuánto le gustaría recibir una herencia?
Combien parmi vous aimerait recevoir un héritage?
Noé recibió una herencia.
Eh bien, Noé a reçu un héritage.
¿Cuál fue su herencia?
Et quel fut cet héritage?
Justicia.
La justice.
Como que Dios está dando un mensaje.
Comme si Dieu était en train de donner un message.
Dios está trayendo una verdad.
Dieu était en train d'amener une vérité. Et le cycle suivant, c'est dans Genèse 12, quand Dieu appela Abraham
en l'an
2000 avant Jésus-Christ. Au chapitre 12,
Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre.
Dieu lui dit, quitte ta terre, quitte la maison de ton père.
Y te bendeciré.
Et je te bénirai.
Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Et au travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre.
Cuando Dios salvó a Noé en el arca,
quand Dieu appela Noé dans l'arche,
bendijo a una familia.
Il n'avait béni qu'une seule famille.
Salvó una familia.
Il sauva une famille.
Pero ahora no tan solo quiere salvar una familia.
Et là, non seulement il veut sauver une famille,
ahora quiere salvar a todas las familias de la
maintenant
terra.
Il veut sauver toutes les familles de la terre.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Il dit qu'en toi seront bénies toutes les familles de la terre.
Te engrandeceré. Serás bendición.
Je t'élargirai, tu seras béni, tu seras une bénédiction.
En Genesis 15,
et dans Genèse 15,
Dios ha bendecido a Abraham.
Dieu a béni Abraham.
Abraham está en su tienda.
Donc Abraham est dans sa tente.
Tiene 85 años de edad.
Il a 85 ans.
Y Dios le dice, y Abraham le dice a Dios.
Et Abraham dit à Dieu.
Dios, tú me has bendecido tanto.
Dieu, tu m'as tellement béni.
Me has prosperado tanto.
Tu m'as tellement fait prospérer.
Que estoy muy agradecido contigo.
Que vraiment, je te suis très reconnaissant.
Pero Dios, estoy triste.
Mais tu sais, je suis triste.
Porque no me has dado ningún hijo.
Parce que tu ne m'as donné aucun fils.
Yo cambiaría todo lo que tú me has dado.
Et moi, j'échangerais tout ce que tu m'as donné
porque me dieras un hijo.
Pour que tu me donnes un fils.
No tengo hijos.
J'ai pas de fils.
Y todo lo que tú me has dado,
et tout ce que tu m'as donné
va heredarlo, un esclavo nacido en mi casa.
Et ben c'est un esclave né dans ma maison qui va en hériter.
Dieu le dit à Abraham.
Donc Dieu dit à Abraham.
Non Abraham.
Non Abraham.
No va a ser un esclavo.
Ce ne sera pas un esclave.
Va a ser un hijo tuyo.
Ce sera un de tes fils.
Sal de tus pensamientos. Sal de tus pensamientos. O sal de tu mentalidad.
Ah oui, sors de tes pensées, sors de ta mentalité.
Ve las estrellas del cielo.
Et regarde ce que je vois moi du
si
ciel.
Tú puedes contar las estrellas del cielo,
regarde le ciel, si tu peux compter les étoiles,
se podrá contar tu familia.
Eh bien, tu peux compter ta famille, elle sera tout aussi nombreuse.
Y lo llevó a la arena del mar.
Et ensuite, il l'amena près de la mer à regarder le sable.
Cuenta los granos de arena.
Il dit, compte donc les grains de sable.
Porque si los puedes contar,
parce que si tu peux les compter,
se podrá contar tu descendencia.
Eh bien, on pourra compter ta descendance.
Abraham, ¿me crees?
Tu me crois, Abraham?
No sé, Dios.
Je sais pas, Seigneur.
Tengo 85 años.
J'ai 85 ans, tu sais.
Soy viejo.
Je suis vieux maintenant.
Abraham, ¿me crees?
Abraham, est-ce que tu me crois?
Bueno, Dios,
bon, peut-être, ouais.
Abraham, me crees?
Abraham, me crois-tu?
Si.
D'accord. Oui.
Abraham, me crees?
Abraham, me crois-tu?
Si, Dios.
Oui, Dieu.
Abraham, me crees?
Abraham, me crois-tu?
Si, Dios, te creo.
Oui, Dieu, je te crois.
Abraham, me crees?
Abraham, me crois-tu?
Si, Dios te creo.
Oui, Dieu, je te crois.
Abraham, me crees?
Est-ce que tu me crois, Adam?
Si, Dios creo tus promesas.
Oui, Dieu, je crois en tes promesses.
Porque si tú me crees a mí,
parce que si tu me crois,
tu fe te puede ser contado por justicia.
Alors ta foi te sera comptée à justice.
Versículo 6 del capítulo 15.
Et donc le verset 6 du chapitre 15.
Il dit, y creyó Abraham a Dios.
Il est dit, Abraham eut confiance en l'Éternel.
Y su fe le fue contada por.
Qui le lui imputa à justice.
Abraham no tan solo es el padre de la fe.
Donc non seulement Abraham est le père de la foi.
También es el padre de justicia.
Mais c'est aussi le père de la justice.
Para todas las naciones.
Pour toutes les nations.
Pasan 500 años.
500 ans passent.
Estamos en Éxodo.
Nous nous retrouvons dans Exode.
Capítulo 1.
Au chapitre 1er.
Tenemos el nacimiento de Moisés.
Et là nous voyons la naissance de Moïse.
En el año 1500 antes de Cristo.
Dans l'an 1500 avant Jésus-Christ.
Fue cuando nació Moisés. Israel está en Egipto.
Israël se trouve en Égypte.
Está esclavizado.
Il est en esclavage.
Y dice que nació un niño.
Et il nous est dit qu'il est né un enfant.
Y cuando nació,
et quand il naît,
lo vieron hermoso.
Ses parents le trouvèrent beau.
Y no lo conservaron o lo escondieron.
Et ils le cachèrent, ils le gardèrent en vie.
Exode 2, 1 et 2.
Exode 2, versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois.
Dice que lo vio hermoso.
Il nous est dit là qu'elle le vit beau.
Y lo escondió.
Et elle le cacha.
En Hechos 7, 20.
En Actes 7, verset 20.
Esteban está hablando del nacimiento de Moisés.
¿Quién está hablando?
Esteban, el primer mártir, Esteban.
Ah oui, Stéphane parlait de Moïse. Étienne, pardon. Okay. Étienne parlait de Moïse.
7, 20.
Dans Actes 7, 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père.
Es interesante lo que nos dice el versículo 20.
Il est intéressant de voir ce que nous dit le verset 20.
Porque dice que nació Moisés y fue agradable a Dios.
Parce qu'il nous est dit que Moïse est naquit et qu'il fut agréable à Dieu.
Éxodo dice que sus padres lo vieron hermoso.
Et dans Exode, il nous est dit que ses parents le trouvèrent beau.
Pero Hechos dice que fue agradable a Dios.
Mais dans Actes, il nous est dit que c'est Dieu qui le trouvait beau.
O sus padres lo vieron hermoso.
Donc ses parents le trouvèrent beau.
o Dios lo vio agradable.
Ou bien c'est Dieu qui l'a trouvé beau.
La palabra agradable que es utilizado en Hechos 7:20.
Le mot qui est utilisé comme beau dans Actes 7:20.
Viene de una palabra griega que significa perfecto o justo.
Vient d'une parole grecque qui signifie parfait ou juste.
Dios lo vio perfecto.
Dieu l'a vu parfait.
Y porque Dios lo vio perfecto.
Et parce qu'il l'a vu parfait.
Sus padres lo vieron hermoso.
Eh bien, ses parents le trouvèrent beau.
O sus padres lo vieron como Dios lo veía.
Ou plutôt, on peut dire que les parents le virent comme Dieu le voyait.
Y Dios le salvó la vida.
Ainsi Dieu lui sauva la vie.
Y Moisés nació con otra mentalidad.
Et Moïse est né avec une autre mentalité.
Todos los israelitas tenían una mentalidad de esclavos.
Tous les Israélites en ce temps-là avaient une mentalité d'esclave.
Pero Moisés se crió en el palacio del faraón.
Mais Moïse lui a été élevé dans le palais du pharaon.
Y Moisés tenía una mentalidad de rey.
Et lui, il avait une mentalité de roi.
¿Qué mentalidad necesitamos, de esclavo o de rey?
Quelle mentalité avons-nous, une mentalité d'esclave ou de roi?
De rey.
De roi.
Tenía una mentalidad diferente Moisés.
Moïse avait une mentalité différente.
Por eso Dios le mandó llamar liberar a su pueblo de Israel.
Et c'est pour ça que Dieu l'appela pour sauver le peuple d'Israël.
En Éxodo 3,
Dans Exode 3,
Dios se le aparece en una zarza,
Dieu lui apparaît dans un buisson ardent.
Il lui dit que vaya y libere a Israel de Egipto.
Et il lui dit qu'il va libérer Israël d'Égypte.
Pero él no quiere ir.
Mais lui ne veut pas y aller.
Dice, no puedo.
Dit non, non, je ne peux pas.
No me van a hacer caso.
Ils ne vont pas m'écouter.
Me, no van a querer.
Ils ne vont pas me croire.
Si yo voy y le digo que el Dios de sus padres me ha enviado, me van a preguntar su nombre.
Et s'il m'envoie que je dis que je, si tu m'envoies que je vais au nom du Dieu mais mes pères, ils vont me dire mais quel est son nom à ce Dieu-là?
¿Cuál es tu nombre?
C'est quoi ton nom?
Y el versículo 15 dice, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel.
Et le verset 15 nous dit, je suis celui qui suis, ainsi tu le diras au peuple d'Israël.
El que existe por sí mismo me envía.
Celui qui existe par lui-même, c'est lui-même qui m'envoie.
Y Moisés libera a Israel de l'esclavitud de Egipto.
Et du coup, Moïse va libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte.
Pero cuando lo libera, establece la fiesta de la Pascua.
Et il le libère alors qu'ils sont en pleine fête de Pâques.
La fiesta de la Pascua era una fiesta de intercambio.
Et la fête de Pâques est la fête de l'échange.
Donde traían un cordero.
Et c'est dans cette fête où ils amenaient un agneau
que fuera perfecto,
qui était parfait,
que no fuera ciego,
qui n'était pas aveugle,
que no fuera cojo,
qui n'était pas boiteux,
que no tuviera mancha,
qui n'avait pas de tache ni de défaut.
L'observaban por tres días,
ils l'observaient pendant trois jours.
Cuando lo iban a sacrificar,
et alors qu'ils allaient pour le sacrifier,
ponían la mano en la cabecita del animalito,
ils posaient leur main sur la tête de l'animal.
Confesaban su pecado.
Ils confessaient leur péché.
Confesaban su maldad.
Ils confessaient leur méchanceté.
Toda la maldad pasaba al animalito.
Et alors toute la méchanceté était transférée sur l'animal.
Y la perfección del animalito pasaba a la familia.
Alors la perfection de l'animal leur était transférée.
Luego sacrificaba al animalito.
Ensuite ils sacrifiaient l'agneau.
O derramaba su sangre.
Il répandait son sang.
La sangre la ponían en las puertas y en las ventanas.
Et ensuite il plaçait le sang sur le dessus de la porte.
Cuando venía el ángel de la muerte.
Et alors que l'ange de la mort passait.
Y veía la sangre puesta.
Et qu'il voyait le sang posé sur les linteaux.
Pasaba encima de la casa.
Alors il passait au-dessus, il allait outre.
Y no traía muerte a esa familia.
Et il ne n'amenait pas la mort dans cette famille-là.
Porque era una familia perfecta.
Parce que c'était une famille parfaite.
Completa.
Complète.
No tenía pecado.
Elle n'avait pas de péché.
Eso se le llama Pascua.
Et c'est là qu'ils appelaient cela la Pâque.
Ahora, en Corintios dice.
Et dans Corinthiens, il nous dit.
Que Cristo, nuestra Pascua, que, ya fue sacrificada.
Que Christ, notre Pâque, a déjà été sacrifié.
En 1 Corintios 5, 7.
Dans 1 Corinthiens 5, verset 7.
Cristo es nuestra Pascua.
Christ est notre Pâque.
El sacrificio perfecto.
Il est notre sacrifice parfait.
Que nos hace justos.
Qui nous rend justes.
500 años después.
500 ans plus tard.
Tenemos a David.
Nous avons David.
En el año 1000 antes de Cristo.
En l'an 1000 avant Jésus-Christ.
David es el hombre conforme al corazón de Dios.
David est l'homme conforme au cœur de Dieu.
Ahora, ¿qué fue lo que hizo David que fuera el hombre conforme al corazón de Dios?
Qu'a fait David pour être cet homme semblable au cœur de Dieu?
Había tres características en David.
Il y avait trois caractéristiques.
Primera característica.
Sa première caractéristique.
Era un adorador.
C'était un adorateur.
Porque David amaba a Dios.
Parce que David aimait Dieu.
Él solo quería adorarlo.
La seule chose qui importait pour lui, c'était d'adorer.
Él estableció lo que conocemos como el tabernáculo de David.
Et c'est lui qui établit ce que l'on appelle le tabernacle de David.
Es un modelo de adoración.
Qui est un modèle d'adoration.
La segunda característica.
La deuxième caractéristique de David.
David entendía autoridad.
Il comprenait, il avait compris ce qu'est l'autorité.
Y siempre se sometía a sus autoridades.
Et il s'est toujours soumis à son autorité.
Obedecía a su papá.
Il obéissait à ses parents.
Obedecía a Samuel.
Il a obéi à Samuel.
Y obedecía al rey Saúl.
Et il a obéi au roi Saül.
Era un hombre que siempre entendía autoridad.
C'est un homme qui a toujours su ce qu'était l'autorité.
La tercera característica.
Et sa troisième caractéristique.
Es que David entendía justicia.
C'est que David avait compris ce qu'était la justice.
Porque hacía algo que nadie más hacía.
Parce qu'il faisait des choses que personne d'autre n'avait fait.
Era ponerse la vestidura del sacerdote.
Par exemple, il se revêtait du vêtement sacerdotal.
No siendo sacerdote.
Sans être grand prêtre lui-même.
Los sacerdotes únicamente eran de la tribu de Lévi.
Parce que les sacrificateurs étaient normalement seulement de la tribu de Lévi.
David era la tribu de Judá.
Alors que David, lui, était de la tribu de Judas.
Y no le correspondía ponerse la vestidura sacerdotal o el efod.
Donc normalement, c'était pas à lui de se revêtir du vêtement sacerdotal ou de l'éphod.
Podía tocar el arca.
Il pouvait toucher l'arche.
Y no morir.
Sans mourir.
Cualquier otro la tocaba y moría.
N'importe qui d'autre aurait touché l'arche et serait mort tout de suite.
Pero David no.
Mais David non.
¿Por qué?
Pourquoi?
Porque David entendía el intercambio.
Parce que David avait compris l'échange avec le sacrifice.
Salmo 32 David escribe.
Et dans le psaume 32 David écrit.
Bienaventurado el varón.
Bienheureux l'homme.
A quien Dios no inculpa pecado.
Auquel Dieu n'impute pas ses péchés.
Ni cuyo espíritu hay engaño.
Et dans lequel esprit il n'y a pas de mensonge.
O dice bienaventurado el hombre que ha sido perdonado.
Ou il dit aussi bienheureux l'homme qui a été pardonné.
Porque si ha sido perdonado es justo.
Parce que s'il a été pardonné, il est juste.
Por eso David es el hombre conforme al corazón de Dios.
Et c'est pourquoi David est cet homme conforme au cœur de Dieu.
David significa amado.
David veut dire aimé.
Es lo que significa su nombre.
C'est la signification de son nom, bien-aimé.
500 años después.
500 plus tard.
Tenemos el octavo ciclo.
C'est le huitième cycle.
En el año 500 antes de Cristo.
500 ans avant Jésus-Christ.
En la época de Daniel.
À l'époque de Daniel.
Cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia.
C'est quand le peuple d'Israël se retrouve captif à Babylone.
En Daniel capítulo 9.
Dans Daniel au chapitre 9.
Daniel tiene aproximadamente 90 años.
Daniel a à peu près 90 ans.
Y está leyendo la escritura.
Et alors qu'il lit les écritures.
Y se da cuenta que el juicio de Dios está terminando sobre la nación.
Il se rend compte que le jugement de Dieu est en train d'arriver à son terme sur la nation.
Después de 70 años.
Après 70 ans.
Ahora, es interesante.
Donc là, il est intéressant.
Porque tres veces a Daniel se le dice amado.
Parce que Daniel est appelé trois fois de suite bien-aimé.
Tú eres muy amado.
Tu es bien-aimé.
¿Qué significa David?
Qu'est-ce que cela voulait dire pour David?
Amado.
Aimé.
Tiene relación con el ciclo anterior.
Cela voulait dire qu'en fait, il est en relation avec le cycle précédent.
Entonces, Daniel capítulo 9 versículo 20.
Daniel au chapitre 9 au verset 20.
¿Quieres leerlo del 20 al 24?
Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints.
Daniel estaba pidiendo perdón por sus pecados.
Donc Daniel était en train de demander pardon pour ses péchés.
Y los pecados de toda la nación.
Et pour les péchés de toute la nation.
Cuando el ángel Gabriel le dice.
Alors que l'ange Gabriel vient et dit.
Entiende la visión.
Comprends la vision.
Entiende lo que te voy a decir.
Comprends ce que je vais te dire.
Porque tú eres muy amado.
Parce que tu es bien aimé.
Voy a enseñarte algo.
Je vais t'enseigner quelque chose.
Y le dice.
Et il lui dit.
70 semanas
70 semaines
están diseñadas para tu nación.
Ont été prévues pour ta nation.
Y le da la revelación de las 70 semanas de Daniel.
Et il donne donc la révélation de la 70e semaine.
¿Tú has oído hablar de las 70 semanas de Daniel?
Perdona?
¿Has oído hablar de las 70?
As-tu entendu parler de la 70e semaine de Daniel?
Son semanas proféticas.
Il s'agit là de semaines prophétiques.
Mucha gente ha predicado de ellas.
Beaucoup ont prêché là-dessus.
Pero no lo han entendido.
Mais ils ne l'ont pas compris.
Ve lo que el ángel le dice a Daniel.
Et donc l'ange dit à Daniel.
Ten entendimiento y sabiduría.
Reçoit sagesse et intelligence.
Porque es muy importante esto.
Parce que cela est très important.
Porque desde que salga el edicto de reedificar a Jerusalén, o desde que salga el mandato de reconstruir Jerusalén,
parce qu'alors qu'il donne ce mandat de reconstruire Jérusalem,
hasta la venida del Mesías habrá 70 semanas.
Et jusqu'à la venue du Messie, il y aura 70 semaines.
O le está diciendo.
Où il est en train de lui
dentro
dire.
Dentro de 70 semanas.
De ces 70 semaines,
el Mesías va a venir, va a morir.
Dans 70 semaines, le Messie va venir.
Ahora, no son semanas como las que hoy vivimos.
Mais il s'agit pas là de semaines comme l'on vit, vous et moi.
Son semanas proféticas.
Il s'agit là de semaines prophétiques.
Son semanas de años.
Il s'agit des semaines d'années.
Quiere decir que cada semana
cela veut dire que chaque semaine
dura 7 años.
Dure 7 années.
Entonces, si tú multiplicas las 70 semanas,
donc si tu multiplies 70 semaines
por los 7 años de cada semana,
par 7 années de chaque semaine,
te da 490 años.
Cela va te donner 490 ans. Oh. 7 fois 7, 49 plus 0, 4, 700.
Voilà. Te voy a decir.
Donc je te dis
lo que va pasar dentro de 500 años.
Ce qui va se passer dans 500 ans.
Imagínate que Dios te dijera.
¿Qué esto?
Imagínate que Dios te dijera.
Imagine que Dieu te dise.
Patrick, te voy a decir lo que va a suceder dentro de 500 años.
Et Patrick, moi je vais te dire ce qui va se passer dans 500 ans.
En el año 2510.
En l'an 2510.
Dentro de 500 años.
Dans 500 ans.
Imagínate.
Imagine.
Il le dice. Il lui dit algunas cosas importantes.
Il lui dit différentes choses très importantes.
Versículo 24.
Au verset 24.
Para terminar con la prevaricación. Ok, versículo 20.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.
La prévarication. Poner fin al pecado,
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché,
expiar la iniquidad,
pour expier l'iniquité,
traer justicia
et amener la justice éternelle.
O justicia eterna.
Justice éternelle.
Dentro de 70 semanas,
dans 70 semaines,
se traerá justicia eterna.
On amènera la justice éternelle. Éternel.
Porque el Mesías va a morir,
parce que le Messie va mourir
y va a establecer un sacrificio perfecto.
Et il va établir un sacrifice parfait.
Wow. Es lo que le está diciendo.
C'est ça ce qu'il est en train de lui dire.
Porque cada 500 años habla de justicia.
Parce que chaque 500 ans, il parle de justice.
Entiende la visión.
Comprends la vision.
Entiende la profecía.
Comprends la prophétie.
Porque muchos no la van a entender.
Parce que beaucoup ne vont pas la comprendre.
Si hubiera el santo de los santos.
S'il y avait eu le saint des saints.
Y se sellará la visión.
Eh bien la. Y?
Se sellará la visión. Lo que estoy diciendo.
Et alors la vision. Alors. Pour c'est la vision des prophètes pour oindre le saint des. Ah oui, pour oindre le saint des saints et pour sceller la vision et le prophète.
Entiende.
Comprends.
Va a ser dentro de 500 años.
Cela va se passer dans 500 ans.
500 años después.
500 ans plus tard.
En el año 30 después de Cristo.
En l'an 30 après Jésus-Christ.
En 8-9.
Donc le 9e cycle.
Cycle en Lucas.
Dans Luc.
Capítulo 19.
Au chapitre 19.
Del 29 al 44.
De 29 à 44.
No lo vamos a leer. Es la entrada triunfal.
Il s'agit là de l'entrée triomphale.
Jesús está entrando a Jerusalén.
Jésus est en train d'entrer à Jérusalem.
Sus discípulos están cortando ramas de los árboles.
Ses disciples sont en train de couper des palmes.
Están poniendo en el piso sus mantos.
Ils sont en train de jeter à terre leurs manteaux.
Y están diciendo, Hosanna al hijo de David.
Et ils sont en train de crier Hosanna au fils de David.
Bendito el hijo de Dios.
Béni soit le fils de Dieu.
Los fariseos se enojan.
Et les pharisiens se fâchent.
Y le dicen, calla estos, a esta gente.
Ils disent, mais faites-les taire.
Te están recibiendo como tú fueras, como si tú fueras el Mesías.
Fais-les taire, ils sont en train de te recevoir comme si tu étais le Messie.
Te están recibiendo como si tú fueras el Salvador del mundo.
Ils te reçoivent comme si tu étais le Sauveur du monde.
¿Por qué no los callas?
Pourquoi est-ce que tu ne les fais pas taire?
Jesús dice.
Et Jésus répond.
Si yo los callo,
si moi je les fais taire,
las piedras clamarían.
Les pierres crieront.
Después se va al monte.
Ensuite, il s'en va sur la montagne.
Ve a Jerusalén de lejos.
Il voit Jérusalem de loin.
Y empieza a llorar.
Et il commence à pleurer.
Jerusalem, Jerusalem.
Oh, Jérusalem, Jérusalem.
¿Cuántas veces quise juntarte?
Combien de fois j'ai voulu te rassembler?
Como la gallina junta sus polluelos.
Comme une poule rassemble ses poussins.
Pero tú no quisiste.
Mais toi, tu n'as pas voulu.
Si al menos conocieras que hoy es el día de tu visitación.
Si seulement tu pouvais reconnaître qu'aujourd'hui est le jour de ta visitation.
Si al menos entendieras.
Si seulement tu comprenais.
Que esta es la semana 70 de Daniel.
Que nous sommes dans la 70e semaine de Daniel.
Pero ahora está cegada tu entendimiento.
Mais actuellement ton entendement est aveuglé.
Y vendrán días.
Mais les jours viendront
que tú vas a ser destruida,
où tu seras détruite
porque no conociste el día de tu visitación.
Parce que tu n'as pas su reconnaître le jour de ta visitation.
Porque no conociste cuando yo estaba visitando a tu generación.
Parce que tu n'as pas reconnu le temps où j'ai visité ta génération.
40 años después,
et 40 ans plus tard,
el año 70 después de Cristo,
l'an 70 après Jésus-Christ,
el general Tito destruyó Jerusalén.
Le général Titus a détruit Jérusalem.
40 años después de la entrada triunfal de Jesús.
40 ans après l'entrée triomphale à Jérusalem.
El año 30 después de Cristo.
Donc l'an 30 après Jésus-Christ.
Era el cumplimiento de muchas palabras proféticas.
Et là, c'est l'accomplissement de beaucoup de paroles prophétiques.
De Isaías 53, 11 y 12.
D'Ésaïe 53, 11 et 12.
Mira lo que dice Isaías 53.
Voyons ce qui nous est dit dans Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos.
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes.
O establecerá justicia perdurable.
Ou l'on peut dire aussi qu'il établira la justice.
Justicia eterna.
Justice éternelle.
Con un sacrificio perfecto.
Par un sacrifice parfait.
500 años después.
500 ans plus tard. Le cycle 10.
En el año 500 después de Cristo.
500 ans après Jésus-Christ.
El imperio romano por esos años cae bajo la influencia de la iglesia.
L'Empire romain dans ce temps-là tombe sous le pouvoir de l'Église.
Y hay dos libros.
Et il y a deux livres
que cambian el pensamiento del mundo existente.
Qui vont changer la mentalité du monde de l'époque.
Uno de ellos es la traducción de la Biblia en latín.
L'un d'eux est la traduction de la Bible en latin.
Por San Jerónimo.
Par Saint Jerónimo.
Que la tradujo en el año.
Saint Jérôme.
Jerónimo. Jerónimo, okay. 404.
En 400, 400 cuánto?
En el año 404.
En l'an 404.
Que tradujo la Vulgata latina.
Il a donc traduit la Vulgate.
La gente empezó a leer la Biblia.
Alors les gens commençaient à lire la Bible.
Y empezó a cambiar su entendimiento.
Et cela a ouvert leur compréhension.
Empezó a entender que tenían la naturaleza de Dios.
Alors ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient la nature de Dieu.
El segundo libro.
Et le deuxième livre.
Fue escrito en el año 410.
A été écrit en l'an 410.
Por Agustín de Hipona.
Par Saint Augustin.
Fue escrito en el año 410.
Il a été écrit en l'an 410.
¿En qué año estamos hoy?
En quelle année sommes-nous? 2010.
Hace 1600 años.
Ça fait 1500 ans.
Escrito hace 1600 años.
Ah oui, 1600 ans.
Este libro se llama La Ciudad de Dios.
Et ce livre s'appelle La Cité de Dieu.
Después de la Biblia.
Et après la Bible.
Es uno de los libros más leídos a través de la historia.
C'est le livre le plus lu dans le monde entier, au travers du monde.
Yo lo leí hace algunos años.
Je l'avais lu il y a quelques années en arrière.
Se llama La Ciudad de Dios.
Il s'appelle donc la Cité de Dieu.
Varios gente dice.
Plusieurs personnes disent.
Que después del apóstol Pablo.
Qu'après l'apôtre Paul.
No hubo ningún predicador tan elocuente.
Il n'y a pas eu de prédicateur si éloquent.
Ni con tanta revelación.
Ni qui ait autant de révélation.
Como Agustín de Hipona.
Que Saint Augustin.
Y él leí ese libro.
Alors que je lisais son livre,
y él dice en su libro,
et il disait
que Dios está formando una ciudad,
que Dieu est en train de former une cité,
una ciudad donde él gobierna,
une cité dans laquelle lui gouverne,
y que el primer hombre en habitar esa ciudad,
et que le premier homme qui habitait cette cité
fue el justo Abel,
fut le juste Abel,
porque ofreció un excelente sacrificio.
Parce qu'il avait offert un sacrifice excellent.
Il disait, y para habitar en esa ciudad,
et il disait que pour habiter dans cette cité,
solo se necesita un requisito.
On a juste besoin d'un requis.
Ser justo.
Être juste.
Es el único requisito.
C'est la seule chose requise.
Si tú eres justo,
si tu es juste,
puedes habitar en la ciudad de Dios.
Alors tu peux habiter dans la cité de Dieu.
Y da una explicación del libro de Gálatas y del libro de Romanos.
Et il donnait là l'explication du livre des Galates et du livre des Romains.
Tan hermoso.
Tellement belle.
Porque habla de la naturaleza de Dios.
Parce qu'il parle de la nature divine de
habla,
Dieu.
Habla de identidad.
Il parle d'identité.
Habla de justicia.
Il parle de la justice.
Este libro, La Ciudad de Dios,
et ce livre, La Cité de Dieu,
cambió la forma de pensar de la gente.
A changé la mentalité des gens.
Cambió su visión.
Changea sa façon de voir les choses.
Cambió su entendimiento.
Changea sa compréhension.
500 años después.
500 ans plus tard.
El año 1000 después de Cristo.
En l'an 1000 après Jésus-Christ.
Vivimos uno de los periodos más oscuros dentro de la historia de la humanidad.
On a vécu un des temps les plus obscurs de toute l'humanité.
Y dentro de la iglesia.
Et dans l'église en particulier.
Es donde los papas están gobernando y reinando.
C'est là où les papes gouvernent.
Los papas de la iglesia católica.
Les papes de l'église catholique.
Que tienen gobierno sobre todos los reyes de su tiempo.
Qui en fait gouvernent sur tous les rois de leur temps.
Históricamente.
Historiquement.
No, hasta ciertos datos que yo tenía.
Selon les données que j'avais.
Porque ya me dijeron otra cosa hoy.
Parce que aujourd'hui on m'a dit autre chose.
No hubo un cambio muy fuerte en la forma de pensar del hombre.
Il n'y a pas eu de changement vraiment radical dans la pensée de l'homme.
Yo sabía.
Moi je savais.
Que en las montañas de Francia.
Que dans les montagnes de France.
Hubo un mover y avivamiento de Dios.
Il y avait eu un réveil de Dieu, un mouvement de Dieu.
En algunas montañas.
Dans certains lieux de France.
Hoy Luc me dijo,
et aujourd'hui Luc m'a dit
que, fue un mover de adoración,
que ce fut un mouvement d'adoration,
de integridad,
d'identité et d'intégrité, d'adoration, d'intégrité et de réforme. C'était la réforme de Cluny.
Réforme.
Et réforme.
Okay. Es interesante,
et il est intéressant.
Que fue de adoración.
Que ce fut d'adoration.
Porque en el año 1000 antes de Cristo.
Parce que dans l'an 1000 avant Jésus-Christ.
Estaba David.
Il y avait David.
¿Y qué hizo David?
Et que fit David?
Un mover de Dios.
C'était un mouvement de Dieu.
En el año 1000 después de Cristo.
Et dans l'an 1000 après Jésus-Christ.
Hay un mover de adoración.
Il y a un mouvement d'adoration.
Este es antes de Cristo.
C'était avant Jésus-Christ.
Este es después de Cristo.
Et l'autre est après Jésus-Christ.
Hay relación.
Il y a une relation.
Esto fue en Francia, aquí en Francia.
Et cela a eu lieu en France.
Pero en ese tiempo,
mais en ce temps-là,
fue cuando los papas gobernaban.
C'était quand les papes gouvernaient.
Fue un tiempo en los que los peores papas gobernaron la iglesia.
C'est là où les pires papes gouvernèrent l'église.
Hubo mucha corrupción.
Il y eut beaucoup de corruption.
Mucho asesinato.
Beaucoup d'assassinats.
Mucha maldad.
Beaucoup de méchanceté.
Uno de los papas que gobernaron en el año 1000.
Et un des papes qui gouverna en l'an 1000
fue Benedicto IX.
Fut Saint Benoît IX.
¿Cómo se llama el papa hoy?
Et comment s'appelle le pape aujourd'hui?
Benedicto XVI.
Benoît XVI.
En ese tiempo reinó Benedicto IX.
Et en ce temps-là, ce fut donc Benoît IX qui gouverna. Qui gouvernait.
Fue un tiempo muy difícil.
Ce fut un temps très difficile.
500 años después,
et 500 ans plus tard, cycle 12,
cycle 12, el año 1517,
en 1517,
empieza la reforma protestante en Alemania.
Commence la réforme protestante en Allemagne.
Cuando Martín Lutero,
quand Martin Luther,
que es un fraile agustino.
Qui est un frère augustin.
Fraile agustino.
Un frère augustin.
Eso quiere decir.
Cela veut dire.
Que pertenecía a la misma orden de Agustín de Hipona.
Veut dire qu'il appartenait au même ordre que Saint Augustin.
Que había fundado en el año 400.
Qui avait fondé cet ordre en l'an 400.
Un fraile agustino.
Un frère d'Augustin.
En Erfurt, Allemagne.
Et donc en Allemagne,
es un joven que está estudiando leyes.
C'est un jeune homme qui étudie la loi.
Una noche muy
le
lluviosa,
droit. Et une nuit,
oye que Dios le habla,
il entend que Dieu lui parle.
Y se entra al ministerio,
et alors, s'il entre dans le ministère,
en este, en Arfur, en este monasterio,
dans ce monastère,
y tiene hambre de Dios,
et il a faim de Dieu, il
quiere
est affamé,
conocer a Dios.
Il veut connaître
empieza
Dieu.
A leer la Biblia.
Alors il commence à lire la Bible.
Uno de sus maestros dice,
et un de ses maîtres dit,
me preocupa mucho Martin Lutero.
Je suis vraiment très inquiet pour Martin.
Porque lee mucho la Escritura.
Parce qu'il lit beaucoup la Bible.
Pasa mucho tiempo leyendo la Biblia.
Il passe beaucoup de temps dans les Écritures.
Otros maestros dice,
et d'autres maîtres disent,
sigue leyendo,
il continue toujours de lire.
La verdad.
Il lui dit plutôt, continue à lire et tu trouveras la vérité.
Él se sentía muy pecador.
Et lui se sentait vraiment
y
pécheur.
Alguien le dijo,
et quelqu'un lui dit,
tú tienes que ir a Roma.
Tu devrais aller à Rome.
Cuando tú vayas a Roma,
si tu vas à Rome,
a la ciudad santa de los papas,
à la ville sainte des papes,
tú vas a encontrar la paz en tu alma.
Alors tu trouveras la paix dans ton âme.
Le enviaron a una comisión a Roma.
Alors ils lui ont donné une commission, une.
Dejar algo a Roma.
Ouais, ils lui ont dit voilà, va faire un.
Cuando llegó a Roma,
et quand il est arrivé à Rome,
y vio tanto pecado,
il y a vu tant de péchés,
se sintió decepcionado,
qu'il était vraiment déçu,
y estaba subiendo de rodillas a la catedral de San Pedro,
et alors qu'il montait à genoux à la cathédrale Saint-Pierre,
y en su mente,
et dans sa pensée,
empezó un versículo a taladrar,
il pensa un verset,
mas el justo por la fe vivirá.
Le juste vivra par la foi.
Mas el justo por la fe vivirá.
Le juste vivra par la foi.
Mas el justo por la fe vivirá.
Le juste vivra par la foi.
Mas el justo por la fe vivirá.
Le juste vivra par la foi.
Llegó a Alemania.
Et alors qu'il rentrait en Allemagne.
Empezó a leer los salmos.
Alors il a commencé à relire les psaumes.
Y encontró a Cristo en los salmos.
Et alors il a trouvé le Christ dans les psaumes.
Después empezó a leer Romanos.
Ensuite il commence à lire Romains.
Cuando llegó al capítulo 1 versículo 17.
Et alors qu'il arrive au chapitre 1 verset 17.
Y encontró el versículo, mas el justo por la fe vivirá.
Et qu'il tombe sur le verset, le juste vivra par la foi.
Dice que una profunda paz vino a su vida.
Alors il est dit qu'une paix profonde vint dans sa vie.
Dice, y nací de nuevo.
Et il naquit de nouveau.
Y sentí que todos mis pecados fueron quitados.
Et alors il vit que tous ses péchés lui furent ôtés.
Y la justicia de Cristo fue dada a mí.
Et il dit que la justice de Christ l'enveloppa.
El 31 de octubre de 1517.
Donc le 31 octobre de 1517.
Clavan los 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania.
Alors il va clouer 95 articles sur la cathédrale de Nuremberg en Allemagne.
Dando lugar a la reforma,
qui vont donner naissance à la réforme,
que cambió el pensamiento de la gente,
et qui changea la mentalité des gens,
que cambió su visión,
qui changea sa vision.
Otro de los reformadores,
un autre réformateur,
fue el francés Juan Calvino.
Fut Jean Calvin, le français.
¿Han oído hablar de Juan Calvino?
Vous avez entendu parler de Jean Calvin?
¿Conoces a un francés?
Vous saviez qu'il était français.
Alguien conoce a un français. Juan Calvino.
Jean Calvin.
Uno de los reformadores.
Un réformateur.
Que cambió la forma de pensar.
Qui a transformé aussi la façon de penser.
Fue un mover de Dios extraordinario.
Et il y eut là un mouvement de Dieu extraordinaire.
Martin Lutero.
Martin Luther.
Empieza a predicar justicia.
Commence à prêcher la justice.
Ese mismo año, 1517,
en cette année 1517,
una caravana de La Habana, Cuba,
une caravane,
un barco de La Habana,
ah oui, un bateau qui revenait de la Havane,
llega a costas de un nuevo país llamado la Nueva España.
Ils arrivent sur une côte qu'ils appellent la Nouvelle Espagne,
conocido después como México,
qui ensuite a été connu sous le nom du Mexique.
Y empieza la conquista.
Et là, il commence la conquête.
1919,
en 1919,
Hernán Cortés llega a México.
Fernán Cortés arrive au Mexique.
1521,
en 1921,
es la conquista de Tenochtitlan. O conquista de la Nueva España.
Ah oui, pardon, 1500, c'est la conquête de la Nouvelle-Espagne.
En ese mismo año 1521.
Et en cette même année 1521,
el rey Carlos V,
le roi Charles Quint,
que era Carlos V de España,
qui était Charles Quint d'Espagne,
y tercero de Alemania,
et troisième d'Allemagne,
es el mismo rey,
c'est le même roi,
solo que era quinto en España y tercero en Alemania,
sauf qu'il était cinquième en Espagne et troisième en Allemagne,
manda a llamar a Martín Lutero,
fait appeler Martin Luther
para que se retraiga de lo que ha estado enseñando y predicando,
et il lui demande de retirer tout ce qu'il avait enseigné.
Porque Martín Lutero predicaba.
Parce que Martin Luther prêchait
que la única de forma de ser salvos es a través de la fe en Jesucristo.
Que la seule moyen de trouver le salut était au travers du moyen de la foi en Jésus-Christ.
Que la máxima autoridad en la iglesia era la palabra de Dios y no el Papa.
Et que l'autorité suprême de l'Église, ça n'était pas le pape mais la parole de Dieu.
Y estaba en contra de muchas cosas del catolicismo.
Et il confrontait beaucoup de choses dans le catholicisme.
Y le dice, retráete de eso.
Alors Charles Quint lui dit, retire tout cela.
Entonces, Martín Lutero dice una de las palabras célebres.
Et alors Martin Luther cita ces mots célèbres.
Dice, no me es justo ni puedo retraerme. No me es justo.
Je ne suis.
O no. O no puedo arrepentirme.
Je ne peux pas me repentir
de lo que he dicho y enseñado,
de ce que j'ai dit et de ce que j'ai enseigné.
Al menos que me lo demuestres con la escritura.
À moins que vous ne puissiez me le démontrer par les Écritures.
Que Dios me ayude.
Et que Dieu me vienne en aide.
Y empezó uno de los moveres muy fuertes.
Et c'est là qu'un mouvement puissant commença.
Con un mensaje de justicia.
Par un message de justice.
En 1517.
Es el inicio
de la reforma protestante.
Et c'est là le début de la réforme protestante.
En 1524.
En 1524.
Llegan a México.
Arrivent au Mexique.
24 frailes franciscanos.
24 frères franciscains.
Con una comisión.
Qui avaient un mandat.
Establecer en la Nueva España o en México,
établir dans la Nouvelle Espagne ou plutôt au Mexique
la ciudad de Dios,
la ville de Dieu.
La ciudad de Dios era un modelo teológico,
la cité de Dieu était un modèle théologique
de Agustín de Hipona,
de Saint Augustin,
de este libro que yo les dije,
de ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Pero era un fraile franciscano.
Mais le problème c'est que c'était un frère franciscain.
No entendía.
Et il ne comprenait pas
el pensamiento agustino.
La pensée de Saint Augustin.
Este fraile era Martín de Valencia.
Et ce frère était donc Martin de Valence.
Y nunca pudo hacerlo.
Et il n'a jamais pu le réaliser.
En lugar de haber mandado a Martín de Valencia,
et si au lieu d'avoir envoyé Martin de Valence,
hubieran mandado a Martín Lutero,
ils avaient envoyé Martin Luther,
y hubiera establecido justicia en México.
Il aurait établi la justice au Mexique.
Pero enviaron a Martín de Valencia.
Mais ils ont envoyé Martin de Valence.
E impusieron el catolicismo en México.
Et il établit le catholicisme au Mexique.
Pero 500 años después.
Mais 500 ans plus tard.
Por cierto, ¿cuánto falta para 500 años?
Donc combien d'années manque-t-il maintenant pour les 500 ans? 7. 7.
¿Alcanzaremos a vivir 7 años más?
Est-ce qu'on vivra cette année de plus? Ouais, on sera encore
yo
là
no
dans 7 ans.
Yo me digo que iba a ser en el 2017. Pero... Dios no me dijo que iba a ser en 2017.
Dieu ne m'a pas dit ce qu'il allait faire en 2017.
Me dijo va a ser antes. Va a ser antes.
Il m'a dit que ce serait avant.
Me dijo empezará en el 2010.
Il m'a dit ça va commencer en 2010.
¿Cuánto falta para el 2010?
Combien manque-t-il pour 2010?
Ya estamos en el 2010.
Nous y sommes déjà.
Dios está pensando un mover que está cambiando la forma de pensar.
Dieu a commencé un mouvement qui est en train de transformer nos façons de penser.
El año pasado,
l'année passée,
yo conocí a unos franceses que fueron.
J'ai rencontré et j'ai connu des Français qui sont venus
a México a estudiar justicia.
Au Mexique pour apprendre sur la justice.
Este año,
et cette année,
estoy viendo a varios franceses,
je vois beaucoup de Français
que en abril los vi en México.
Et que j'ai rencontré au Mexique.
Porque iban a aprender
parce qu'ils allaient apprendre
mensaje de justicia.
Ce qu'est la justice.
Cada 500 años,
chaque 500 ans,
Dios pone su mano en una generación,
Dieu pose sa main sur une génération
y produce cambio de mentalidad,
et il change la mentalité.
Cambio de pensamiento,
il change la façon de penser.
Cambio de visión,
il change la façon de voir.
La última fue en 1517,
donc la dernière visitation fue en 1517.
La próxima visitación es en nuestra generación.
Et donc la prochaine.
Esta es la próxima.
Et dans cette génération, c'est notre génération.
Tú no eres producto de la casualidad.
Tu n'es pas le fruit du hasard.
Dios te preparó y quiso que nacieras en esta generación.
Dieu t'a préparé et il voulait que tu naisses dans cette génération.
Para que vieras uno de los más grandes moveres.
Afin que tu puisses voir un des plus grands mouvements.
Puedo hablarte de otras cosas. Pero hoy solo quiero resumir en algo.
Donc il y aurait d'autres choses à voir, mais aujourd'hui je voudrais juste résumer cela.
Porque también ya es tarde.
Parce que maintenant il est déjà tard.
Tú eres una generación diferente.
Tu es une génération différente.
Tú eres una generación donde Dios va a producir una reforma.
Tu es une génération parmi laquelle Dieu va produire une réforme.
Dije, si está en la Biblia,
et dis-toi si c'est dans la Bible.
Está en la historia.
Et bien c'est aussi dans l'histoire.
Y ya les mencioné la historia.
Et c'est déjà dans l'histoire.
Dije, si está en la historia,
et si c'est dans l'histoire,
está en la ciencia.
C'est aussi dans la science.
Cada 500 años, la ciencia cambia.
Chaque 500 ans, la science.
La ciencia cambia.
Cada la 500... science change.
Una de las cosas que cambia.
Une des choses qui change.
Es la comunicación. La comunicación.
C'est la communication.
¿Han oído el dicho todos los caminos conducen a Roma?
Vous avez entendu parler du dicton tous les chemins mènent à Rome?
¿Sabes por qué es ese dicho?
Vous savez pourquoi? Porque era la época de Jesús y todos los caminos lo hicieron los romanos, así que salían de Roma para ir. Ya nací en Roma, yo por eso lo sé. Bien sûr, je le sais, puisque je suis née à Rome, ma maman me l'a enseigné. Donc à l'époque, ce sont les Romains qui ont établi toutes les voies romaines, et donc toutes partaient de Rome ou allaient à Rome.
Por eso es el dicho, todos los caminos.
Et c'est de là que vient ce dicton, tous les chemins mènent à Rome.
Ahora. En 1450,
en 1450,
se inventó la imprenta.
Ils ont inventé l'imprimerie.
Antes que empezara la reforma.
Juste avant que ne commence la réforme.
Porque había un mensaje que comunicar.
Parce qu'il y avait un message à communiquer.
Que toda la humanidad debería de saber.
Que toute l'humanité avait besoin de connaître.
Después que Martín Lutero clavó las 95 tesis.
Après que Martin Luther ait cloué ses 95 thèses.
Gracias a la imprenta.
Grâce à l'imprimerie.
En tres meses.
En trois mois.
Todo Roma, toda Europa leyó estas 95.
Toute l'Europe a pu le lire.
Porque fueron transmitidos a través de la imprenta.
Parce que cela avait pu être transmis au travers de l'imprimerie.
1960.
En 1960.
Se inventó el internet.
On a inventé l'internet.
Pero no se hizo conocido en todo el mundo. Pero no se hizo conocido o no lo utilizó todo el mundo.
Mais cela n'a pas encore été utilisé par tous.
Sino hasta 1900, hasta el año 2000, inicio del 2000.
Avant l'an 2000. Ça c'est né en 1960 mais ça n'est venu vraiment à l'usage de tous qu'en l'an 2000.
Aunque se inventó en 1960.
Sí, ya lo dije.
Ahora,
donc
a través del internet.
Au travers de l'internet maintenant.
Tú puedes estar en cualquier parte del mundo.
Tu peux te retrouver dans n'importe quel endroit du monde.
Y en 15 segundos.
Et en 15 secondes.
Te están viendo y oyendo.
Ils peuvent te voir et t'entendre.
No importa en dónde estés.
Peu importe où tu te trouves.
Porque hay un mensaje que comunicar.
Parce qu'il y a un message à communiquer.
Cada vez que Dios va a dar un nuevo mensaje,
donc à chaque fois que Dieu s'apprête à donner un nouveau message,
lo primero que cambia son las comunicaciones.
La première chose qui change, ce sont les communications.
Hay un mensaje que Dios quiere dar.
Il y a un message que Dieu veut donner.
Por eso existe el Internet.
Et c'est pour ça qu'il y a l'Internet maintenant.
Para que todo el mundo oiga esta verdad.
Afin que tout le monde puisse entendre cela.
Tú eres parte de esta generación.
Et toi, tu fais partie de cette génération.
Dios te está bendiciendo.
Dieu te bénit.
Y quiere que participes de ella.
Et il veut que tu y participes.
No eres una obra de la casualidad.
Tu n'es pas une œuvre du hasard.
Es un mover que sucede cada 500 años.
C'est un mouvement qui prend place chaque 500 ans.
Cuando yo descubrí esto,
et quand j'ai découvert cela,
fue hace 10 años.
C'était il y a 10 ans.
Lo empecé a predicar.
J'ai commencé à le prêcher.
Nadie me creía.
Personne ne me croyait.
Todo mundo se reía.
Tout le monde se moquait.
Ahora esta enseñanza
et maintenant, cet enseignement
se ha traducido a varios idiomas.
A été traduit en plusieurs langues.
Porque varia gente está convencida.
Parce que beaucoup sont maintenant convaincus.
Porque Dios ha empezado un mover.
Parce que Dieu a commencé un mouvement.
Y tengo una noticia para ti.
Et j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Tú eres parte de ese mundo.
Tu en fais partie.
Francia es parte de ese mundo.
La France en fait partie.
Esta iglesia es parte de ese mundo.
Cette église en fait partie.
Por eso estás entendiendo justicia.
Et c'est pour ça que tu es en train de comprendre ce qu'est la justice.
Porque Dios está pensando en ti.
Parce que Dieu pense à toi.
Dale un aplauso al Señor.
Applaudissons le Seigneur.
Dios va a tocar esta generación.
Va a tocar esta
generación.
Dieu va toucher cette génération.
Van a ser levantados los calvinos del año 2010.
Les calvins de l'an 2010 vont être levés.
Calvino.
Calvin.
Cambió esta nación.
A changé cette nation de France.
El francés que tú hablas hoy.
Et le français que tu parles aujourd'hui.
Fue el francés que dejó Calvino.
Est le français qu'a laissé Calvin.
Calvino es el padre del idioma francés.
Calvin est le père de la langue française.
Porque hizo muchas aportaciones a esta nación.
¿Por qué?
Hizo muchas aportaciones.
Parce qu'il a apporté beaucoup de choses à cette nation.
Tuvo un entendimiento del gobierno de Dios.
Il avait compris ce qu'était le gouvernement de Dieu.
La enseñanza de Calvino ha sido una bendición a las naciones.
Et l'enseignement de Calvin a été vraiment une bénédiction pour les nations.
Si tienes un entendimiento a través de justicia.
À moins si tu comprends ce qu'est la justice.
Muchas de esas verdades.
Beaucoup de ces vérités
sont poderosas.
Sont très puissantes.
Si la puedes ver a través de justicia.
Si tu peux les voir au travers de la justice.
Y Dios lo está haciendo en tu nación.
Et ce que Dieu fait dans ta nation.
Dios está visitando de nuevo Francia.
Il est en train de visiter à nouveau la France.
Hubo un mover muy fuerte de reforma en Francia.
Il y avait eu un mouvement très fort de réforme en France.
Antes de la masacre de San Bartolo.
Avant le massacre de la Saint-Barthélemy.
Y Dios está volviendo a visitar esta nación.
Et Dieu visite à nouveau cette nation.
Y tú eres parte de esta.
Et tu en fais partie.
Dios va a cambiar el pensamiento.
Dieu va changer la façon de penser
et la vision de cette nation.
Et la vision de cette nation.
Et Dios quiere usarte a ti.
Et Dieu veut t'utiliser toi.
Porque tú eres un hombre y una mujer de propósito y destino.
Parce que tu es un homme, tu es une femme de destinée.
Espíritu Santo, yo suelto tu unción.
Saint-Esprit, je libère ton onction
sobre cada hijo e hija tuya en esta noche.
Sur chacun de tes fils et de tes filles ici ce soir.
Que tu Espíritu Santo esté tocándole.
Que ton Saint-Esprit les touche.
Siento que deben de pasar. Que pueden pasar, quiero poner ahora.
Et je sens qu'il faudrait que vous vous approchiez, que je puisse vous imposer les mains.
Hay algo que Dios va a hacer en esta noche en ustedes.
Il y a quelque chose que Dieu va faire ce soir.
Siento muy fuerte que tengo que tocar.
Je sens vraiment fort qu'il me faut vous toucher.
Porque Dios va a traer un nuevo entendimiento de la Escritura a sus vidas.
Parce que Dieu va amener une nouvelle compréhension dans vos vies.
Spiritu Santo, ven.
Saint-Esprit, viens.
Spiritu Santo, ven.
Viens, Saint-Esprit.
Spiritu Santo, ven.
Viens, Saint-Esprit.
Toca tus hijos.
Touche tes fils et tes filles. Touche-les.
Toca esta generación.
Touche cette génération.
Cambia esta nación.
Change cette nation.
Cambia su mentalidad.
Change sa mentalité.
Cambia estos jóvenes.
Change ces jeunes.
Cambia su mentalidad.
Change leur mentalité.
Dios va a empezar a hacer algo muy fuerte con los jóvenes.
Dieu va commencer à faire quelque chose de très puissant avec les jeunes.
Ustedes son una generación de propósito y destino.
Vous êtes une génération de destinée.
Dios va a cambiar a Francia.
Dieu va changer la France.
Y lo va a hacer a través de ustedes.
Et il va le faire au travers de vous.
Dios va a cambiar la política.
Dieu va changer la politique.
Pero va a ser a través de ustedes.
Mais ça va être au travers de vous.
Dios va a cambiar la economía.
Il va changer l'économie.
Francia no es pobre.
La France n'est pas pauvre.
Francia no es pobre.
La France n'est pas pauvre.
Hay mucha riqueza en esta nación.
Il y a beaucoup de richesses dans cette nation.
Y a través de ustedes, Dios la va a sacar.
Et c'est au travers de vous que Dieu va la révéler.